Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 23 octobre 1996, diffusé dimanche 29 novembre 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Good evening to everybody. Tonight we will make this transmission in English, not exactly in English. Actually it is more Bishlamar, sort of Bishlamar, because the President of the Republic gave us the example to speak English. I don't understand why he spoke English, because he was in Israel, and in Israel the language official is not English. It is Hebrew or Yiddish. But he doesn't speak English or he doesn't speak Hebrew or Yiddish, so he spoke English. Est-ce que vous avez tout compris?
Sûrement, c'est Victoria, bien sûr, mais c'est bien sûr.
The advantage of speaking.
Vous avez un merveilleux accent qui fait que je comprends, voilà. Comme j'ai compris ce que disait Monsieur
Chirac. The advantage of speaking English that way, it is the Palestinian way it is called. It is that everybody is able to understand.
Bon, you understand allez, what I mean? Parce que son cerveau est tous,
provocation.
Ils sont en train de chercher la bonne fréquence. Ils ont trompé, c'est pas là.
C'est à peu près la seule façon de prendre cette affaire qui est totalement révoltante. Totalement révoltante. D'abord parce que le président de la République française aille se friter avec un bidas israélien dans les rues de Jérusalem, parce qu'il s'est littéralement frité avec lui.
You're talking to me.
You fuck my wife. Mais c'est monstrueux, mais qui c'est ce type qui est à l'Elysée?
Look at me, you're talking to me.
Une fois, moi j'ai trouvé sympathique.
Oh, quoi, c'est grotesque. Alors en plus, il est président de la République française et il fait ça, je dis en anglais, c'est même pas de l'anglais, c'est une espèce de bichlamar. Une espèce de langue que international English,
basic English,
c'est même pas du basic English,
c'est le volapük dont parlait De Gaulle.
Voilà, c'est le volapük. Le basic. Alors vous entendez la voix de
Nicolas
Bonnal, je le précise, et de Victoria, bien sûr, en plus de la mienne.
Oui.
Voilà. Mais je me souviens que à l'école, quand on apprenait le basic English, il y avait 400 mots dans le basic English.
Là, il y en a 40.
Là, il y en a 40.
Ou 20 fois 20.
You talk to me.
Racine de 40.
Bon, vous soufflez sur mon enthousiasme, je croyais. Non, je commençais à parler anglais. Eh bien,
c'est
non.
C'est pitoyable.
C'est ça qu'elle apprécie. Chirac,
moi, j'ai compris l'anglais. Pourtant, Dieu sait que je n'aime pas ce personnage, je n'aime pas la République. Et je n'ai aucun respect pour la fonction présidentielle qui, pour moi, n'incarne que une usurpation vieille de 2 siècles. Mais là, à ce point, c'était déshonorant. Je me sentais profondément blessé dans mon identité de Français par l'attitude de ce personnage vulgaire, médiocre, qui était en train de se prendre de bec avec un bidas israélien.
You want to blow off my fist? You want to blow off my fist?
What do you want? You want me to take the plane to go back Paris?
Arrêtez, pousse.
Écoutez, c'était, non, vous n'avez pas été choqué.
Pas du tout, moi, ça m'a fait rire.
Incroyable.
Chirac Gaulle.
Bravo, il va faire le coup de poing. J'attendais le coup de poing. Il n'est pas venu. Là, j'étais un peu déçu.
Et alors après, il est allé, dans un...
Et puis après, elle a fait un triomphe.
Dans un triomphe, chez où?
Bah, chez les Arabes.
Alors, en plus, ça prouve quoi? C'est vraiment un poignet vilain, il vous poindra. Il va à la Knesset. D'abord, il devait pas y aller à la Knesset. Vous savez pourquoi il voulait pas aller à la Knesset?
Non, ça, je ne sais pas.
Parce que quand les organisateurs du voyage israélien lui ont proposé une visite à la Knesset, il a répondu, non, je veux pas faire la même chose que Mitterrand. Donc, oui. Il a refusé. Ensuite, il a dit qu'il voulait y aller parce que la puissance invitante avait manifesté une certaine surprise à la nouvelle qu'il ne viendrait pas à la Knesset. Donc, immédiatement, il a mis ses préventions dans sa poche, parce que c'est pas un têtu, hein, Chirac. Hein. Quand en face, les gens disent, tu fais ça, si vous voulez, on va le faire. Enfin, tu fais pas ça, ben d'accord, on le fera pas. Et là, donc, immédiatement, il a mis ses préventions dans sa poche, il a dit, on va à la Knesset. Et tout ce qu'il a gagné quand il est arrivé à la Knesset, c'est que monsieur Nathan, il s'appelle Nathan Eitan, je crois, hein, ou un nom comme ça, qui est un député israélien, il s'est levé, il a dit, en hébreu, mais ça, on nous l'a traduit.
Very conservative party, very religious.
Ouais, il a un parti religieux, il a dit, je ne resterai pas une seconde de plus, cet homme est un antisémite, et il est parti. Alors franchement, je veux dire une chose, monsieur Chirac, vous voyez que c'était pas la peine de faire ce que vous avez fait, parce que, de toute façon, hein, vous êtes un antisémite. Hein. Bienvenue au club. C'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait pour être traité d'antisémite? Il a parlé aux Arabes. Alors, en France, si vous êtes gentil avec les Arabes, vous passez pas pour un antisémite. C'est si vous êtes méchant avec les Arabes que vous passez pour un antisémite. Et il y a toute une finesse. Ça, c'est en France. En Israël, c'est différent. Oui, ça, on va pas rentrer là-dedans. D'abord, ça n'existe pas, puisque les races n'existent pas. Et, mais en Israël, c'est différent. Si vous êtes aimable avec les Arabes, c'est pas du tout parce que vous voulez du bien aux Arabes. Vous voulez du bien aux Arabes, c'est parce que vous voulez du mal aux Juifs. C'est très très différent. Donc, M. Chirac, ça y est, il est classé antisémite, comme le premier Le Pen venu. Il a gagné. Alors,
c'était lui le fasciste.
Mais attendez, il y a quand même une chose que je voudrais dire. C'est que mon excellent camarade Juppé, l'autre jour, il a dit, M. Le Pen est viscéralement antisémite. Et là, monsieur Nathan, comment il s'appelle? Nathan Eitan, c'est ça? Un nom comme ça. Enfin, un député israélien a dit, monsieur Chirac est antisémite. Mais moi, je pose la question. Qui est le mieux placé pour définir l'antisémite? Est-ce que c'est monsieur Juppé ou est-ce que c'est un député israélien? Donc, qui est le plus ferré à glace sur ce genre de sujet? Imaginez que moi, je dise à un bouddhiste, vous êtes un mauvais bouddhiste. Le gars me dira, mais qu'est-ce que vous en savez?
Vous connaissez.
Bon, vous n'en savez rien, occupez-vous de vos affaires. Donc j'ai fort le soupçon, je ne sais pas, je peux me tromper, je me trompe probablement. Enfin, il me semble quand même que, en matière de désignation des antisémites, je préférerais faire confiance à un député israélien qu'à un premier ministre français. Vous voyez? Bah, c'est des idées à moi, ça, c'est obligé de... Tiens, on va faire un concours. D'abord, je vous signale qu'on se retrouve comme pratiquement tous les mercredis à la mer agitée après. Si vous voulez nous rejoindre, vous téléphonez au 43 35 56 64. C'est la bonne adresse. C'est le bon numéro de téléphone, car la semaine dernière, quand j'ai donné le numéro de téléphone, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une petite erreur. Et j'avais bien raison, car on a donné un faux numéro.
Pourquoi?
Qui était le numéro de téléphone d'un médecin.
Oh là là, de la...
Qui, devant l'avalanche des coups de téléphone, a fini par dire, écoutez, je ne suis pas le restaurant dont vous parlez, mais on a l'air de bien s'amuser, je vais peut-être aller faire un tour. Ce qui était gentil de sa part, il aurait pu se mettre en colère. Alors donc, le téléphone, c'est 43 35 56 64 pour dîner avec nous ce soir. La deuxième chose que je vais faire, c'est vous faire un cadeau. Mon excellent ami, notre excellent ami Maurice Molina, qui est, je vais l'inviter un jour à cette émission parce que c'est vraiment un personnage incroyable. Vous connaissez pas, vous?
Non,
Victoria,
non, je le connais pas.
Alors, Maurice Molina, c'est le patron, le propriétaire du théâtre de l'Eldorado. Alors, le théâtre de l'Eldorado, c'est au Carrefour Strasbourg-Saint-Denis. C'était un théâtre qui était tombé en déconfiture.
Il y avait un cinéma avant, quoi, là.
Oui, il y a un cinéma, il y a un théâtre, etc. Mais là, c'est un très beau théâtre. Et Maurice Molina l'a refait à ses frais, entièrement. Quand je dis à ses frais, c'est une affaire de plusieurs dizaines de millions de francs.
Oui.
Maurice Molina, c'est un homme qui est passionné de théâtre et qui a qui a du bien. Il a un petit peu d'argent. Il a décidé d'investir ses sous dans le théâtre. Moi, j'aurais préféré qu'il investisse dans la presse, mais lui, ça l'amuse pas du tout. Il préfère le théâtre. Bon. Donc, il a entièrement refait l'Eldorado. Et il a fait monter à l'Eldorado, par Jean-Marie Bernica et Françoise Petit, le faiseur d'Honoré de Balzac. Et comme il aime bien Radio Courtoisie, il aime bien le Libre Journal, il m'a dit, voilà, je t'envoie des places. Alors tu proposes à tes auditeurs, s'ils veulent venir, d'aller voir le faiseur.
Avec
Jean-François Bellemare. C'est une merveille. C'est très drôle à voir parce que c'est ça a été écrit par Balzac, donc ça a un certain nombre d'années déjà, mais c'est étonnamment d'actualité. Et donc j'ai des places à vous proposer. Tous les soirs, sauf le samedi soir, pour des raisons qui m'échappent. Vous téléphonez au 42 38 34 60, vous réservez, mais il faut avoir les places. Alors, les places, je les ai ici, et je les offrirai donc aux auditeurs de cette émission qui voudront prendre la peine de les demander. Et comme on est quand même un tout petit peu limité, j'ai eu l'idée de faire, pour un concours, mais disons, de poser une question qui est une espèce de laisser-passer, c'est-à-dire que les auditeurs qui auront envie vraiment de venir, ils feront une petite recherche pour retrouver ça, ils passeront un coup de fil à un copain ou ils liront un dictionnaire pour savoir, pour pouvoir répondre à cette question. C'est pas compliqué, c'est, voilà, en 1836, Balzac a fondé une revue qui s'appelait pas le Libre Journal de la France Courtoise, mais qui s'appelait, comment, je vous demande, quel était le titre du journal fondé par Balzac en 1836? Vous avez une idée, Victoria?
Pas du tout.
Oh là là, elle est institutrice, bah bravo. L'institutrice qui savent pas ça. Je vous fais pas mes félicitations.
Mais ça ne dit rien.
Donc si vous le, si vous le savez, vous téléphonez et vous recevez deux places. Si vous ne le savez pas, vous téléphonez quand même et vous dites, je ne sais pas, mais je voudrais bien deux places. Et puis, on vous enverra des places. Dans la limite des places disponibles selon la
formule consacrée.
La formule consacrée. Alors, c'est Le Faiseur d'Honoré de Balzac au théâtre de l'Eldorado, 4 boulevards de Strasbourg. Et vraiment, je crois que les critiques ont été unanimes. J'ai pas lu une seule mauvaise critique. Et je n'ai surtout pas eu un seul mauvais écho des gens qui sont allés le voir. Même ADG est allé le voir, il a dit que c'était très bien. Hein? C'est un bon signe, quand même.
Oui, je pense que c'est un bon signe.
Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ce soir, je reçois Nicolas Bonnal, que vous avez entendu, et avec qui on va parler d'un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a consacré un livre. C'est les rapports des stars, stars du cinéma, essentiellement d'ailleurs, françaises, américaines et de toutes les nationalités, avec la part d'ombre de la réalité. Ça, c'est un livre qui s'appelle La damnation des stars.
Oui.
En fond, est-ce que la réussite de ces gens qui font du cinéma ou qui font de la musique est une réussite qui est payée par un pacte? C'est un peu ça la question que ça pose.
La notion de pacte est intéressante si on se rappelle la légende de Faust, justement, qui est liée, pense-t-on, à des initiations d'imprimeurs au XVe siècle, après Gutenberg. Et à cette époque, donc, on crée ce mythe faustien pour parler du rapport qu'il y a entre l'écrit qui va entrer dans le grand public, alors que jusque-là il est réservé aux copistes, au moins dans les monastères, et qui va révolutionner, lors de la Renaissance et de la Réforme, toute la civilisation européenne. Au XXe siècle, on est au même point, c'est-à-dire que le village médiatique, la galaxie Gutenberg dont parle McLuhan, crée de nouveaux héros mythologiques, parce que je me suis référé un petit peu au côté faustien, mais également au côté grec, hein, la tragédie grecque avec les médias qui jouent un peu le rôle du cœur dans les tragédies grecques, et qui invitent le spectateur à s'apitoyer sur le héros, qui est également maudit par les dieux, qui est puni par les dieux. Qu'il s'agisse de Ajax, de Achille ou de évidemment Hercule par exemple. Alors pour le cas des stars, on est arrivé au XXe siècle dans une configuration particulière qui fait que aujourd'hui quelqu'un peut être connu universellement. Lennon disait, qui est un des personnages les plus sinistres dont je parle dans le livre.
Alors c'est John Lennon qui était le leader
des Beatles, et qui a beaucoup de faces d'ombre comme la plupart des très grandes stars qui nous intéressent. Et il disait qu'il était plus connu que le Christ dans les années 60. Donc il y a vraiment la volonté de créer une religion de substitution, une espèce de religion noire, comme une marée noire, quoi, qui s'est emparée de la planète. En contrôlant ce que Guénon appelait le domaine subtil, c'est-à-dire qu'on sait que le malin, comme on dit aujourd'hui, s'attaque aux individus essentiellement par la manipulation du domaine subtil, c'est-à-dire le domaine du rêve, le domaine de la fantaisie, hein, pour parler le langage des romantiques allemands.
Alors on va parler de tout ça, Nicolas, dans quelques minutes. Je crois que c'est un sujet intéressant, c'est un sujet d'autant plus intéressant que depuis quelques années, on sent une espèce de montée en puissance des cultes ou des paracultes sataniques, et que tout ça est très lié, puisqu'il y a de nombreux groupes de rock qui sont très très ouvertement dédiés ou consacrés aux forces, aux puissances d'en bas. Et puis je reçois également Jérôme Pinel. Jérôme Pinel est un créateur de journaux. Il avait créé une revue qui s'appelait Français d'ailleurs, et là il vient de créer une revue qui s'appelle Breton d'ailleurs, qui est encore plus spécialisée, si j'ose dire. C'est une très très belle revue, très intelligente, qui montre combien on peut parler d'une façon intelligente, gay, c'est-à-dire joyeuse,
oui,
et moderne, d'une tradition qui est une tradition très 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 ancienne, puisque c'est la tradition de l'enracinement provincial, de l'enracinement dans une province et même dans une nation. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça? Il faut en profiter en tout cas.
Bah écoutez, il y a beaucoup de Bretons, quand on parle d'expatriés bretons, qui considèrent que en fait tout Breton est expatrié à partir du moment où il est sorti de la Bretagne, et sans même parler des problèmes que représente la région de Nantes. On a à peu près 1 million d'expatriés bretons sur Paris et la région parisienne. Et si on prend les Bretons expatriés sur l'ensemble du monde, là on se retrouve à plusieurs millions. Donc ils avaient besoin d'un magazine qui soit à la fois économique et à la fois culturel, mais sans pour autant tomber dans le bignou et le buveur de Chouchène.
Alors voilà, ça sera notre deuxième sujet, Breton d'ailleurs, la revue Breton d'ailleurs, pardon, qui se dit Braise-Marbro, c'est ça? Braise-Marbro, c'est ça que...
Braise-Marbro.
Et puis, on recevra en fin d'émission Marc Dem, enfin au téléphone, pour un point de l'actualité religieuse. Alors, avant, comme d'habitude, un petit peu d'actualité générale. J'ai déjà dit quelques mots de la magnifique prestation...
You're talking to me.
You're talking to me, of the President of the Republic.
Tiens, dites-moi en anglais, oui. Si vous me tuez, j'irai droit au ciel, en anglais, Chirac, il paraît qu'il a dit ça.
If you kill me, I'll go right to the sky.
Voilà.
Straight.
Non, mais il a dû dire right.
Oui, il a dû dire, et lui dira right.
Voilà. Bernard Tapie Finance change de nom. Donc, c'est quand même... Je vous donne l'information, parce que c'est quand même intéressant de savoir que, si vous voulez, maintenant... si vous êtes vous voyez bien ce que je veux dire, n'achetez plus Bernard à Tapie Finance, ça n'existe pas. Achetez de la Compagnie Européenne de Distribution et de Baisage, et de Pesage, pardon. C'est un lapsus idiot. Et Didier Schuller a démissionné. Alors c'est intéressant, ça fera un escroc de moins au Conseil Général des Hauts-de-Seine, parce que quand même, faut pas oublier que Didier Schuller est en fuite depuis plus d'un an. En Israël. Il est réfugié en Israël depuis plus d'un an. Et depuis un an, il touche ses émoluments de conseiller général. Et là, d'un seul coup, on a transmis sa demande de démission d'office. Ça s'appelle démission d'office. Hein. Il y a des volontaires désignés au hasard et des démissionnaires d'office. Donc, monsieur Didier Schuller va être bientôt démissionné. C'est un des amis de monsieur Pasqua qui s'en va, tout ça est bien triste, mais qu'est-ce que vous voulez que ça, c'est comme ça. On peut pas garder toujours ses amis. Voilà. Quelle autre information pourrait dire? Ah, il y a une petite information qui n'a rien à voir, mais que je trouve très belle et que je vais vous lire. C'est une auditrice qui nous écrit en nous disant qu'au cours de l'émission de mercredi dernier, elle a entendu une allusion aux Acadiens et au grand chambardement, qui était la déportation des Acadiens. Et elle me dit, savez-vous qu'il existe une ferme acadienne à l'appui, la Puille, 86 260, c'est quoi 86?
La Vendée.
La Vendée.
Non, c'est 85.
C'est juste après.
Vendée-Vaux. Vienne.
Ouais,
Vienne.
Voilà. Alors donc, une ferme acadienne à l'appui dans la Vienne, à Saint-Pierre-de-Maillé. Cette ferme est la dernière des 17 fermes données par Louis XV aux Acadiens après leur tribulation. Elles étaient alignées et le nom de ligne acadienne subsiste. Ça devrait passionner cette Zopfand et Jean Faure qui va venir prochainement à l'émission. Je vous signale. Enfin, j'espère qu'il tiendra parole mieux que Brigitte Bardot, parce que quoique physiquement il est moins intéressant, faut bien dire. Mais Brigitte Bardot, malheureusement, on devait la voir aujourd'hui.
Ah non, encore, il y a le...
Non, ça a été remis encore. C'est dur. Elle se fait désirer, cette personne-là.
Mieux vaut star que jamais.
Oui. Donc, je disais, ces fermes étaient alignées et leur alignement s'appelait la ligne acadienne. Et le nom subsiste encore. À la ferme acadienne, on est en territoire acadien, le drapeau acadien flotte, la fête nationale est célébrée le 15 août, le cantique est un chant à la Vierge, plutôt l'hymne national est un cantique à la Vierge, et il y vient des Acadiens du monde entier. La visite de la ferme est guidée par de charmantes Acadiennes qui expliquent très bien toute leur histoire. Les visites ont lieu tous les après-midi en été et seulement le week-end le reste de l'année. Alors voilà, c'est donc à l'appui Saint-Pierre-de-Maillet, une ferme acadienne. C'est une très très jolie adresse pour aller faire un petit tour. Il suffit de trouver le téléphone dans n'importe quel Minitel bien tenu, c'est-à-dire pas le mien par exemple. Et puis notre auditrice, très gentiment, nous conseille de lire deux livres d'Antonine Maillet, Pélagie la charrette et Le Grand Chambardement, qui racontent l'histoire du grand chambardement des Acadiens. Voilà. C'est une belle histoire.
Et puis il y a un livre, pour enfants aussi qui s'appelle Le Grand Chambardement. Bien.
Une auditrice me demande si les affiches publicitaires des magasins Leclerc faisant l'éloge de l'euro avec un slogan « Ensemble apprenons l'euro » sont si cette opération qui consiste dans les magasins Leclerc à changer ses francs pour de l'euro et à payer à la caisse en euros est bien légale. Alors, je ne sais pas si c'est bien légal. Ce qui est sûr, c'est que c'est de la propagande et du bourrage de crâne. Et elle me dit, comment peut-on dénoncer cet abus publicitaire et cette intoxication? À qui s'adresser? Édouard Leclerc, l'ex-épicier de Landerneau, a-t-il été nommé officieusement ministre culte des Affaires économiques et euro-maastrichtiennes? Il faudrait tout de même en avoir le cœur net. Eh bien, moi, j'en ai pas le cœur net, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez à Euromarché, si vous allez à Auchan, si vous allez à Continent, si vous allez à... ou encore, on vous changera pas vos sous pour des euros et vous pourrez faire vos courses tout à fait normalement. Je vous le rappelle quand même. Vous pouvez aussi aller chez l'épicier du coin, qui vous changera vos francs pour des dinars. Voilà. Bien, continuons ce petit tour de l'information, de l'actualité. Alors, tout va très bien. Je vous signale que moi, au fond, je suis assez partisan du vote rapide de la loi Toubon. Parce que ça pourrait éviter certains abus. En tant que vice-président de la GRIF, vous savez que la GRIF, c'est l'Alliance Générale contre le Racisme et pour la Défense de l'Identité Française, dont l'adresse est 70 boulevard Saint-Germain, à Paris. Et le montant de l'adhésion, c'est 50 francs. C'est pas cher, c'est moins cher que l'adhésion à la LICRA ou au MRAP. Et donc vous versez 50 francs et vous participez à la Défense de l'Identité Française, puisque la GRIF peut engager des procès, ce qu'elle fait d'ailleurs très couramment, contre les voyous et les porcs de la presse, comme les porcs de Charlie Hebdo, par exemple, qui insultent le pape à longueur de colonne. Donc, maintenant, grâce à la loi Toubon, la GRIF va pouvoir taper encore plus fort. Et par exemple, je lis là une interview de Monsieur Arabal dans un journal paru tout récemment, dans lequel il dit « Psychologiquement, je me sens plus juif que chrétien, ce qui est tout à fait son droit. Je me sens en marge de la société chrétienne dans laquelle j'ai vécu, qui a été très réticente par rapport à mon père et à moi. Je me suis considéré comme quelqu'un qui ne faisait pas partie de ce troupeau. » Voilà. Donc, je vous signale, chers amis chrétiens et catholiques, que vous êtes un troupeau. C'est-à-dire que...
Et que Rabal est la brebis égarée.
Je n'aurais pas parlé de brebis, moi. Tiens. Non, je pense que c'est plutôt autre chose.
Une vache
folle. On ne le retient pas.
Voilà, on ne le retient pas, bien sûr.
Un brebis,
voilà. Graves incidents au Conseil Général de l'Oise. Alors ça, c'est très très drôle. Les élus communistes du Conseil Général de l'Oise, c'est presque aussi drôle que le député israélien traitant Chirac de nazi, d'antisémite. Les élus communistes au Conseil Général de l'Oise ont demandé hier à l'ouverture de la session que la lumière soit faite sur les affaires qui éclaboussent la majorité départementale et son président RPR Jean-François Mancel. Non seulement le président a opposé une fin de non-recevoir à leur demande, mais ils ont essuyé des insultes de la droite. Les termes de nazis et de fascistes ont été utilisés. Alors, voilà dans quel système on est. Il y a quelques jours, tous ces gens-là appelaient à faire obstacle aux nazis du Front National en votant à Gardanne pour le communiste, hein, y compris les amis de M. Mancel, les gens du RPR, M. Gaudin, qui naturellement a appelé à voter PC, pardon, et il a obtenu gain de cause puisque le député de Gardanne désormais est un député communiste. Eh bien, Monsieur Gaudin et d'autres personnalités de la majorité dans la région du Midi ont donc appelé à voter communiste contre contre Damien Barillet, qui était soupçonné, étant au Front National, d'être un fasciste et un nazi. Et les mêmes, ou leurs copains, ou leurs frères, si ce n'est eux, c'est donc leurs frères, au Conseil Général de l'Oise, traitent les communistes de nazis et de fascistes. Alors, comment ils vont traiter maintenant les gens du Front National? Ça va être très difficile de trouver des termes convenables, parce qu'à partir du moment où les communistes sont nazis, ce qui est mon opinion, je dois le dire, je pense que les communistes sont des nazis rouges. Mais comment ils vont traiter les gens du Front National? Et pourquoi est-ce qu'ils traitent les communistes de nazis? Parce que les communistes demandent à M. Mancel de faire la lumière sur les affaires qui éclaboussent la majorité départementale. Autrement dit, dès que vous demandez qu'on fasse la lumière sur les affaires scandaleuses, sur les escroqueries, sur les détournements de fonds, sur les pots de vin et tout, dès que vous demandez ça, vous êtes nazi. C'est un bon système de défense. Et si vous lisez le prochain numéro du Libre Journal, vous verrez que c'est exactement la machine infernale qui est fabriquée à l'heure actuelle par la majorité et qui sera soumise au Parlement partout bon sous l'appellation de loi contre le racisme. Il ne s'agit pas du tout de lutter contre le racisme. Il s'agit tout simplement de fabriquer une loi qui va permettre de voir du racisme partout et de matraquer tous les gens qui vous enquiquinent. Par exemple, maintenant, quand je dirai à l'avenir ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Monsieur Schuller, Didier Schuller, l'escroc RPR, ami de Monsieur Pasqua, qui a foutu le camp et qui est réfugié en Israël, eh bien, quand je dirai qu'il est réfugié en Israël, je serai poursuivi pour racisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, on ne pourra plus parler de Monsieur Schuller. C'est quand même intéressant. On ne pourra plus dire que M. Edenbaum, le président de la LICRA, a été mis en examen dans une affaire de utilisation de comptabilité bizarroïde. Tout ça, ça sera maintenant interdit. Évidemment, ça sera beaucoup plus confortable pour les hommes politiques, parce qu'ils n'auront plus besoin de se défendre. Alors, entre cette loi qui interdira aux journalistes de parler des escrocs et les dispositions qui ont été prises par M. Toubon pour empêcher les juges français d'échanger leurs informations avec les juges suisses, avec les juges du Luxembourg, avec les juges de l'Europe entière, je pense que la condition d'homme politique, la condition de politicien au pouvoir va redevenir confortable, ce qu'elle n'était plus depuis quelque temps, il faut bien le dire, quand on voyait les soucis que pouvaient connaître M. Léotard, M. Longuet, M. Madelin, M. Noir, M. Carignon, M. Tapie, M. Emmanuelli, il y en a encore, non? Vous n'en voyez pas?
Quelques centaines.
Quelques centaines d'autres. Ça devenait désagréable, et finalement, est-ce que ça continue à être bien intéressant de faire de la politique, hein? C'était beaucoup mieux d'ouvrir des casinos, ou même de vivre, je pense à M. Mouillot, par exemple. Bon, maintenant, ça va redevenir une situation confortable. Donc, si vous avez envie de gagner de l'argent facilement, sans trop vous faire de soucis, faites donc la politique. Et puis, naturellement, inutile de vous dire que ce n'est pas la peine de venir au Front National. Si vous voulez gagner des sous, il vaut mieux rentrer dans les partis qui sont au pouvoir, parce que le Front National, c'est pas la bonne combine. Ça, je peux témoigner qu'on ne gagne pas d'argent au Front National. Alors, il y a un papier dans Libération qui explique qu'il y a un scandale, c'est que maintenant on demande, pour donner des cartes d'identité aux gens, on leur demande de prouver qu'ils sont français. Donc pour avoir une carte d'identité française, il faut prouver que vous êtes français. C'est effectivement renversant. Il faut bien dire que c'est tout à fait... Et alors, par exemple, il y a une dame qui est centrafricaine. Eh bien, figurez-vous que cette dame centrafricaine... qui est mariée avec un Marocain, elle a mis un an à obtenir une carte d'identité française pour son fils. C'est invraisemblable, elle aurait dû l'avoir le jour même. Non, un an. Un an pour qu'une dame centrafricaine ayant fait un enfant avec un monsieur marocain obtienne une carte d'identité française pour cet enfant. C'est vraiment intolérable. Alors, elle raconte que... On lui a demandé des choses absolument incroyables, comme des certificats de travail. Ouais, c'est, enfin, de quel droit, hein? Bon. Il y a une autre dame, qui est française et qui est sans papier depuis 3 ans. Elle est française, mais il faut dire que c'est un petit peu compliqué parce que elle est née en Tunisie d'un père né au Bénin. Vous voyez? Et sa mère est née en Tunisie aussi, d'un père tunisien. Donc elle est vraiment très très française. Il n'y a pas de discussion possible, c'est tout ça est clair. Et alors elle est très étonnée parce que elle n'arrive pas à avoir sa carte d'identité française. Hein? Il faut vraiment réagir contre ça. Ça devient un scandale puisque vous avez des gens qui arrivent dans ce pays et qui, 3 jours plus tard, ne sont pas encore en possession d'une carte d'identité française, ce qui n'a aucune importance d'ailleurs puisque ils vivent aussi bien. J'ai rencontré à midi une dame qui est directrice d'école et qui me disait que elle avait dans sa classe les enfants d'un monsieur, enfin, d'un monsieur africain, qui avait 42 enfants.
C'est pas mal.
42 enfants. Pas de la même mère.
Hein. Il remplit des classes entières comme ça.
Oui, 42 enfants. Et elle disait donc, c'est pas compliqué, il a 8 femmes. Il vient d'épouser la 8e là. Et quand elle lui a demandé pourquoi il a fait 8 femmes, et il a dit parce que une femme à partir de 6 enfants, c'est plus bon. Mm-hmm. C'est vrai. Une femme qui a 6 enfants, c'est très très occupée par les enfants, un papa non plus. Voilà. Tous ces enfants sont naturellement français. Ça va sans dire, puisqu'ils sont nés en France, et le jus soli fait qu'ils sont de nationalité française. Et donc, en plus, c'est plutôt satisfaisant, parce que je lisais un papier récemment dans Présent sur la démographie française, qui est une véritable catastrophe. Catastrophe. La France est en train de se dépeupler, et là, naturellement, grâce à ce jeune homme, à ce sang nouveau, 42 enfants d'un coup, quand même, pour un seul homme, c'est pas mal, faut dire, hein. Là, celui-là, il est tranquille. Au moins, il a du monde pour payer sa retraite. Lui, il aura pas de soucis à se faire. Pour les autres, ça va être plus difficile, mais enfin, lui, c'est bien. Voilà. Des questions, madame Victoria?
Il y a des... On revient sur les sujets traités. Alors Chirac fait recette. Hein. Je n'ai pas bien compris ce qu'a dit Serge Le Bekech. Pour moi, c'est de l'hébreu.
Ah non, je suis désolé, c'est pas du tout de l'hébreu.
Il y a 3 langues officielles en Israël. Hébreu, arabe, français. Alors, l'attitude de Chirac à Jérusalem peut se comprendre comme une attitude électoraliste à l'égard des musulmans qui ont le droit de vote en France. Ah. En anglais, dites donc, monsieur Bekech, là, votre anglais.
Oui.
En anglais, ciel se dit heaven et non pas sky.
Mais attendez, j'ai imité monsieur Chirac, j'ai pas. Si vous voulez que je parle mon anglais à moi, ça va être pire encore.
Pensez-vous que la LICRA va saisir la haute cour pour faire condamner.
You're talking to me. Pardon, excusez-moi.
C'est ça, on cause.
Excusez-moi.
Pensez-vous que la LICRA va saisir la haute cour pour faire condamner monsieur Chirac?
Sûrement.
Merci à S2B, qui est-ce, de faire perdre des voix au Front National avec son sectarisme à la gomme. Ça, c'est le club des fans d'âme de Chirac. Une auditrice dit que vous détournez certains des auditeurs de Radio Courtoisie par votre manque de courtoisie avec M. Chirac.
Ah ouais, je vais être courtois avec eux. Moi, je suis aussi courtois avec eux qui sont courtois avec moi. Là,
ce matin, à France Inter... Un auditeur a dit, lors de son voyage en Syrie, Chirac a annulé une dette de 2 milliards à ce pays.
Mais oui, mais ça, écoutez, alors c'est vraiment, je vais vous dire une chose, quand il faut bien admettre une fois pour toutes, que annuler des dettes qui ne vous seront jamais remboursées, ça n'est pas faire un cadeau à qui que ce soit.
Il a parallèlement annulé la dette de l'assassinat de l'ambassadeur de Lamar au Liban il y a 10 ans, ce qui est extraordinaire.
Il passe l'éponge.
Alors, sur la manifestation des retraités hier, on vous pose un certain nombre de questions. Cette auditrice s'y trouvait, qu'il s'y est passé des choses scandaleuses.
Ben, il s'y est passé
celle-ci,
qu'à...
Je vous lis la série. 4 personnes du Cercle National des Pré-Retraités et Retraités ont été agressées par le scalp et ras-le-front. Mm-hmm. Et puis, une de nos amies a voulu y participer, mais elle n'a pas pu y accéder car les nervis de la CGT l'ont empêchée. Ils ont été littéralement insultés par les communistes.
Oui, ça c'est normal. Je dirais que les gens de Ralph Ron, que les gens du Scalp, que les communistes s'opposent à des manifestants du Front National ou à la participation de militants ou de sympathisants du Front National à une manifestation, c'est dans la norme, c'est normal. Ça fait partie des affrontements politiques normaux. Ce qui est scandaleux, c'est que ça, cette affaire-là, s'est passée sous les yeux de policiers qui ne sont pas intervenus alors qu'il y avait des gens âgés qui étaient en train de se faire triquer fermement par des voyous du Parti communiste qui sont pas plus des retraités que des syndiqués, sont tout simplement des hommes de main du Parti communiste, des nervis communistes, de véritables ordures, des assassins, font partie de ces gens qui ont tué des dirigeants d'entreprise, qui ont tué des responsables, notamment au moment de l'affrontement du Parisien libéré, les deux dirigeants. Le propriétaire du Parisien a été assassiné, monsieur Amaury a été assassiné au cours d'une promenade en forêt à cheval où on a provoqué une chute de cheval dans laquelle il a été tué, et un des rédacteurs en chef de l'AFP a été assassiné parce qu'on l'avait confondu avec un rédacteur en chef du Parisien libéré dont il portait le même patronyme. Par conséquent, ces gens sont des assassins. Eh bien, les mêmes assassins, les mêmes voyous sont venus casser la figure de gens âgés, de retraités qui voulaient manifester. Ça, c'est, je le dis, dans la norme, c'est dans l'habitude. Mais ce qui est très grave, c'est que les policiers qui étaient là, et dont certains membres des renseignements généraux ont filmé la scène avec des caméras vidéo, ces policiers ne sont pas intervenus. Et comme on peut pas soupçonner les policiers d'être partisans de ce genre de choses à titre individuel, il faut en conclure qu'ils ont reçu des ordres de leur hiérarchie. Voilà, de même que M. Foll avait reçu l'ordre de ne pas envoyer ses hommes accompagner le juge d'instruction Alphen pour faire une perquisition chez M. Thibéry, de même les policiers reçoivent des ordres de ne pas intervenir quand des militants ou des sympathisants du Front National sont victimes de violences. Il faut le savoir, c'est parfaitement clair. Et alors c'est très très comique de lire les articles qui ce matin étaient consacrés à cette affaire, non pas à cette affaire pardon, mais à la réunion au cours de laquelle Bruno, à l'issue de laquelle Bruno Gollnisch et les participants de cette réunion sont allés chanter la Marseillaise à l'Arc de Triomphe. Et parce que dans Libération, par exemple, qui n'a pas de mots pour célébrer le courage des jeunes beurs quand ils affrontent les policiers dans les cités, il y a un papier tout à fait indigné parce que un membre du service d'ordre du Front National a pris par le bras un policier pour l'écarter alors qu'il tentait de s'opposer tout seul, le malheureux, à l'avance des manifestants. Il l'a donc écarté très poliment, puisqu'il n'y a pas eu, il n'y a eu aucun choc, il n'y a eu rien du tout. Et Libération est indignée par la violence de ce militant du Front National qui a osé prendre un policier par le bras et l'écarter. Bon, on note ça, on note que maintenant la presse, le Parisien Libéré fait la même chose d'ailleurs. Oui. Je note donc que Libé et le Parisien Libéré sont partisans, sont des défenseurs des policiers quand ces policiers s'opposent à des manifestations. Et j'attends l'occasion de rappeler cette aventure à la prochaine occupation d'église, quand les policiers viendront expulser des occupants illégaux d'une église par la force. Et qu'ils se feront prendre à partie dans Libération et dans la presse, on sera très content de rappeler les positions qui sont celles de la presse aujourd'hui.
Et voilà.
Voilà.
On vous tape un peu sur les doigts, là, parce que la déportation des Acadiens, c'est le grand dérangement.
Oui, c'est une question. Ouais. Enfin, c'est le grand dérangement ou c'est le grand chambardement.
C'est le grand dérangement. Plusieurs fois. Il y a beaucoup d'Acadiens, on vous signale à Belle-Île-en-Mer. Et puis, ce matin, alors France Info, il a été dit que sur proposition du président de la République, la carte des anciens combattants va être attribuée aux anciens des brigades internationales qui ont combattu contre Franco. Vous êtes au courant ?
Non. Ils sont morts.
Mais non, pas tous. Nous espérons que votre invitation...
36, ils avaient... Bon,
oui, mais 30... même s'il n'en reste 15, c'est un scandale.
Ils ont 95 ans. S'ils veulent on leur donne. Ils veulent quoi, la médaille des... La carte des anciens combattants ?
La carte d'anciens combattants.
Mais il n'y a qu'à leur donner. On la donne à plein de gens. Il faut leur donner à eux.
Nous espérons que votre invitation à Brigitte Bardot est maintenue jusqu'à ce qu'elle puisse venir.
Oui,
nous l'attendons. Nous aimons notre bébé.
Moi aussi, j'aime mon bébé. Quoique maintenant, mes bébés, ils ont 26 ans.
Avez-vous vu le film Le Capitaine Conan?
Non.
Qu'en pensez-vous? Bon, il faudra aller le voir.
Je sais pas, peut-être
pas encore
que...
Non.
Dans National Hebdo, on dit que c'est politiquement correct.
Pas surprise générale.
Monsieur Dekatch, peut-il répondre à cette question? Est-ce que Didier Schuller a la double nationalité? C'est un bruit qui court.
J'en sais rien.
On
n'est
pas
rassemble.
Dans le secret des dieux. C'est tout pour le moment.
Bien. Alors, je vais me tourner maintenant vers Jérôme Pinel, donc.
Quelqu'un demande, excusez-moi, si vous êtes d'origine irlandaise.
Pinel? Ouais,
pas du tout.
Pinel, c'est...
Pas du tout. Mais je ne savais pas qu'il y avait des Irlandais qui s'appelaient Pinel.
Oui, au Pinel.
Oui, au Pinel. Ça vient plutôt de sa voix, là. Voilà. Hein?
Tiens, écoute, on va écouter un petit peu de musique, non pas irlandaise, non pas, mais plutôt bretonne, du pays gallo.
Très bien.
Il y avait une servante lundi, mardi danse.
Il y avait une servante lundi, mardi danse.
Et elle attend d'amoureux lundi, mardi, jour de mai. Elle attend d'amoureux qu'elle ne sait lequel prendre.
Qu'elle ne sait lequel prendre lundi, mardi danse. Qu'elle ne sait lequel prendre lundi, mardi danse. C'est un petit cordonnier lundi, mardi, jour de mai. C'est un petit cordonnier qui a eu la préférence.
Qui a eu la préférence lundi, mardi danse.
Qui a eu la préférence lundi, mardi danse.
Lui a fait des soucis lundi, mardi, jour de mai. Lui a fait des souliers
à la mode de Nantes. À la mode de Nantes, lundi, mardi, danse.
À la mode de Nantes, lundi, mardi, danse.
Et les lui fait porter lundi, mardi, jour de mai. Et les lui fait porter à minuit dans sa chambre.
À minuit dans sa chambre, lundi, mardi, danse.
À minuit dans sa chambre, lundi, mardi, danse.
Et c'est en lui chantant lundi, mardi, jour de mai.
Et c'est en lui chantant qu'il lui fit sa demande. Qu'il lui fit sa demande, lundi, mardi, danse. Qu'il lui fit sa demande, lundi, mardi, danse. La belle si tu voulais, lundi, mardi, jour de mai. La belle si tu voulais, nous dormirions ensemble.
Nous dormirions ensemble, lundi, mardi, danse.
Nous dormirions ensemble, lundi, mardi, danse.
Et dans un grand lit carré, lundi, mardi, jour de mai. Dans un grand lit carré, couvert de toile blanche.
Couvert de toile blanche, lundi, mardi, danse. Couvert de toile blanche, lundi, mardi, danse.
Lundi, mardi, danse.
Et dans le mi-temps du lit, lundi, mardi, jour de mai. Dans le mi-temps du lit, la rivière est courante.
La rivière est courante, lundi, mardi, danse.
La rivière est courante, lundi, mardi, danse.
Tous les chevaux du roi, lundi, mardi, jour de mai.
Tous les chevaux du roi pourraient y voir ensemble.
Pourraient y voir ensemble, lundi, mardi, danse.
Pourraient y voir ensemble, lundi, mardi, danse. Lundi, mardi, jour de mai, à la cour du palais, y avait une servante.
À la cour du palais, lundi, mardi, jour de mai,
à la cour du palais, y avait une servante.
Je peux vous dire tout de suite que le concours, il faut arrêter de téléphoner pour le concours, pour les places pour le faiseur, parce que nous avons notre contingent de places.
Oui, et d'ailleurs, j'ajouterai qu'il y a
réponse,
une...
La réponse, attendez, je vais donner quand même la réponse, c'est la chronique... de Paris.
La chronique de Paris.
C'est un titre d'ailleurs qui avait été repris en 43 par Robert Brasillac, dit notre ami de la librairie Les Oies Sauvages.
Ouais, exactement.
Et ne téléphonez donc plus puisque ça y est, vous recevrez.
Toutes les places qu'on avait ont été distribuées. J'ajoute une chose, c'est qu'il y a une confusion. J'ai dit tout à l'heure, quand vous recevrez les places, vous téléphonerez pour réserver deux emplacements à la date disponible,
sûr,
mais il faut pas téléphoner
soir, hein.
Maintenant, surtout parce que le service de presse, le service de presse du théâtre n'est pas informé. C'est une initiative qui vient de Maurice Molina et de moi-même. Et il faut passer par nous, voilà. Donc les auditeurs qui ont apporté des réponses ou qui n'ont pas apporté de réponse mais qui ont demandé des places recevront, puisqu'ils ont laissé leurs adresses, hein, bah oui, les premiers, donc recevront les places que j'avais promises tout à l'heure pour le faiseur d'Honoré de Balzac. Voilà, ça partira demain du Libre Journal de la France courtoise. Alors, comme je l'ai dit, donc vous venez d'entendre également le, il faut que je précise ça parce qu'on va nous le demander, le disque que vous venez d'entendre, c'est un disque de Trian, T-R-I, plus loin Y-A-2-N, qui est un groupe breton, et qui a fait un, donc ce disque s'appelle Suite Galaise, ce sont des chants, des musiques du pays gallo, c'est-à-dire de la partie francophone de la Bretagne, c'est-à-dire c'est tout ce qui est à l'est, d'une ligne allant en gros de Saint-Brieuc à Vannes. Hein, on peut dire ça à peu près. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, bon. Enfin, on va pas rentrer dans ces considérations-là. C'est la Bretagne où qu'on cause le français.
En tout cas, voilà. Ils sont excellents.
Jérôme Pinel, Breton d'ailleurs, c'est le sixième numéro qui vient de sortir.
Ouais.
Pourquoi avoir fait une revue qui est en quelque sorte, sinon réservée, du moins consacrée aux Bretons qui ne vivent pas en Bretagne?
Eh bien écoutez, pour une raison très simple, c'est que auparavant on éditait une revue qui s'appelait Français à l'étranger. Pour Français à l'étranger, on a circulé un peu partout dans le monde, et il était frappant de constater que, où que l'on aille dans le monde, on était reçu par des Bretons. Par des Bretons qui étaient bien dans leur peau, qui avaient des entreprises qui étaient prospères, et qui très souvent nous demandaient, quand ils avaient besoin, de, par exemple pour des appels d'offres, de trouver des entreprises complémentaires, si on n'avait pas des entreprises bretonnes, si possible, à leur présenter. Et donc, on a essayé de monter un magazine, donc à la demande de tous ces Bretons qui sont la première population, en fait, de Français expatriés. On a monté ce magazine pour monter justement ces réseaux, pour aider ces patrons de PME, PMI, à exporter peut-être un peu plus. Par ailleurs, pour des jeunes Bretons qui veulent travailler sur l'international, de les mettre en contact avec de leurs confrères, je dirais, de Bretons à l'étranger. Et donc, ce magazine, on a essayé de le faire et à la fois sur un axe économique et par ailleurs sur un axe culturel, mais sans pour autant tomber dans les côtés associatifs, c'est-à-dire il y a beaucoup de Bretons à l'étranger qui sont très fiers d'être Bretons, sans pour autant tomber dans le côté dont je parlais tout à l'heure, Chouchen, Bignou, etc. Mais donc le fait de leur parler de leur culture, c'est très important, de parler de réseau d'appui sur lequel ils peuvent compter, c'est très important aussi. Et donc c'est le sixième numéro. À l'heure actuelle, on diffuse par le réseau NMPP, Relais H, etc., et aussi énormément par les abonnements. Donc, c'est un magazine qui a, il nous semble, au bout de six numéros, qui a sa place parfaitement sur le marché et qui correspondait à une demande très forte justement, ces Bretons de l'étranger. Mais de l'étranger, c'est aussi bien les Bretons qui sont à Paris que les Bretons qui sont en dehors de la France.
Est-ce qu'il y a une... encore vraiment une culture bretonne? Bon, alors ça, je pose la question plutôt là, à Charles-François Lénoré, qui est un collaborateur de cette revue, et qui lui est un breton pur jus. Alors, Jean-Charles Lénoré, la culture bretonne, ça veut encore dire quelque chose en 1996, et surtout en dehors de la Bretagne?
Oui, je crois que le signe de culture bretonne, c'est plus qu'une carte d'identité, en fait. C'est un signe de reconnaissance pour tous les Bretons qui sont à l'étranger, et c'est un signe de qualité, et c'est un signe de reconnaissance, presque, hein, sans tomber dans des verbiages un petit peu différents. Mais il est vrai que quand on dit qu'on est Breton et qu'on est à l'étranger, qu'on rencontre un Breton à l'étranger, il y a la notion de famille et de patrie qui rentre tout de suite en compte. Et au-delà, d'ailleurs, de la famille bretonne, il y a une grande entité qui rentre en ligne de compte, et qui est la famille celte. C'est-à-dire que, au-delà des Bretons, vous allez rencontrer un Écossais, un Irlandais, un Gallois, et vous allez retomber sur cette fraternité celte, qu'elle soit bretonne ou celtique, dans sa grandeur, même galicienne, d'ailleurs, en Espagne, et vous allez recevoir un accueil qui va être, je dirais, en relation avec la grandeur du pays. Et je crois que ça, plus qu'une carte d'identité, puisque Dieu sait qu'on sait que maintenant la carte d'identité en France n'a plus grand-chose à voir, on va dire, une identité régionale et celtique. Et je crois que c'est ça qui est fondamental.
Je crois qu'une autre chose qui a son importance, c'est quand on prend les hommes politiques bretons, et je crois que c'est tout à fait remarquable à l'heure actuelle, c'est vous prenez un pays comme la Bretagne, tous les hommes politiques sont bretons, qu'ils soient de droite, de gauche, ils sont bretons. C'est-à-dire que vous avez un intérêt majeur qui est la Bretagne. Vous prenez les autres régions de France, vous prenez la Normandie ou une autre région, il n'est pas du tout évident que vous trouviez des hommes politiques qui soient normands. C'est-à-dire qu'ils vont...
Il faut bien que les Auvergnats aillent quelque part, ils peuvent pas tous être en Auvergne.
Donc, c'est vrai, mais...
Il faut bien qu'ils se fassent élire dans d'autres régions.
C'est vrai, mais il n'y a pas que des Auvergnats. Mais ce que je veux dire, c'est tout de même très symptomatique d'une région, c'est que la Bretagne est dirigée en tant qu'homme politique par des Bretons. Et je crois qu'on n'a pas une autre région qui soit équivalente.
Quelle est, monsieur Lénoret, l'importance de la langue bretonne encore aujourd'hui?
Ah, je crois que l'importance de la langue bretonne, même si son importance, malheureusement, et je dois le dire, j'insiste, malheureusement, n'est plus parlée par beaucoup de gens, je dirais, sans être méchant, par des purs et durs, mais qui sont des gens de volonté, qui défendent le caractère traditionnel de la langue. L'importance de la langue est énorme, parce que c'est la reconnaissance d'une culture. Et je crois qu'avant tout, même s'il n'y a que 10 personnes encore qui la parlent. Et je crois que c'est important qu'ils la parlent, parce que ces gens-là sont prêts à faire les plus grands sacrifices pour défendre l'identité bretonne. Et alors, on voit un renouveau de la langue, pas forcément au niveau, je dirais, des groupes politiques ou des tendances politiques. On va oublier un petit peu ça, parce que c'est dommage qu'on mêle culture et politique. Hein. On peut être de gauche et parler très bien breton, ou l'inverse. Mais par contre...
Je vais dire qu'on peut être breton et parler très bien de gauche.
Voilà, oui, on va le dire comme ça. Hein, on va le retourner. Non, la langue est l'image d'une identité, d'une culture. Et donc, on doit la défendre en respectant le cadre dans lequel on évolue. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui s'appelle la France, il faut jamais l'oublier, mais qui respecte avant tout des cultures régionales qui s'appellent la Bretagne, qui s'appellent la Corse, le Sud-Ouest, les Alsaciens, les gens du Nord. Mais ça, il faut absolument défendre la langue, parce que c'est le vecteur de toute la culture. C'est le langage écrit, c'est le langage des images, et ça, c'est très important. C'est primordial.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs que dans Breton d'ailleurs, on a monté une rubrique qui est la petite leçon de breton, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bretons à l'étranger dont les enfants ne parlent plus un mot de breton. Et donc, on leur a fait, non pas, on veut pas qu'ils passent une licence de breton, c'est pas le propos, mais c'est qu'au moins, vis-à-vis de leurs parents ou leurs grands-parents, ils aient tout de même des bases culturelles de leur langue. Et puis, on parle réellement langue, on parle pas dialecte ou chose comme ça, on parle langue, donc c'est tout de même un aspect important de la culture.
Est-ce qu'il va y avoir des articles en breton? Parce qu'il y a une rubrique, vous venez d'en parler, qui s'appelle Descomar Brezonec, donc je parle le breton, j'apprends le breton, mais est-ce qu'il va y avoir des articles? Est-ce que vous envisagez de consacrer des articles à la littérature celtique, à la poésie celtique, à la chanson bardique, etc.?
Alors, il est évident que... je vous annonce que le magazine va augmenter de pagination pour faire un dossier culturel sur tout le côté celte, et donc le côté celte en règle générale. Maintenant qu'on aille jusqu'à faire des articles en breton, je ne pense pas. En revanche, nous allons certainement faire des bandes dessinées en breton, et ces bandes dessinées tout simplement pour avoir le côté attractif pour les enfants, pour les gens qui veulent apprendre le béaba du breton. Mais ça s'arrêtera là, on n'est pas... notre magazine n'est pas uniquement culturel, c'est un magazine qui est... économique, de business, de création de réseaux, de création d'échanges, et culturel aussi, pour que les gens n'oublient pas leur culture.
Alors ça veut dire qu'il y a un lobby breton qui est en train de naître, ou qui est né, qui
fonctionne déjà? Le lobby breton existe déjà. Ce qu'on essaye, c'est d'essayer de faire fusionner tous ces lobbies, c'est-à-dire que nous, notre concept, c'est la Bretagne qui gagne. Bon, la Bretagne qui gagne, ça veut dire, ce sont des personnages majeurs, comme les Bolloré, comme un certain nombre de personnalités comme ça, mais c'est tout un réseau et tout un faisceau de patrons de PME, PMI, qui peuvent être leaders mondiaux, mais pour un produit bien déterminé, bien limité, et si on les met tous bout à bout, là vous allez réussir réellement Ah, là, on va pouvoir parler de lobbying au sens positif du terme.
Mais est-ce que c'est pas un petit peu maintenant abusif ou artificiel de parler d'une identité bretonne sur le plan des affaires, par exemple? Je veux dire que si on prend le cas d'un breton de Saint-Brieuc ou d'un breton de Quimper et le cas d'un breton de Nantes, finalement, il y a assez peu de points communs. Ils parlent pas la même langue, ils n'ont pas les mêmes traditions, ils n'ont pas les mêmes costumes, ils n'ont pas le même passé, ils n'ont pas la même histoire. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont...
Pardon de vous contredire un peu. Ils ont le même passé, la même histoire. C'est-à-dire que la région administrative bretonne qu'on connaît à l'heure actuelle est un peu une hérésie parce qu'elle s'arrête à Rennes. Alors qu'elle devrait s'étendre. Là, je vais soulever une polémique immense.
Oui, bien sûr, comme d'habitude.
On va soulever. Mais c'est vrai que la Loire-Atlantique a toujours fait partie du patrimoine, je dirais, historique de la Bretagne, et qu'on l'a massacré un peu au gré de la République. N'en déplaise à certains. Tant pis. Ben, je le dis et je le pense sincèrement. Non, je crois que la Bretagne, ce qui fait la richesse de la Bretagne, c'est sa diversité. C'est vrai que, et vous avez raison de le souligner, que quand on part de Brest et qu'on va jusqu'à Saint-Brieuc, qu'on va jusque dans le pays gallo, ou qu'on va jusqu'à Rennes, le costume n'est pas le même, le parler diffère, la langue n'est plus la même, mais je dirais que l'identité reste la même, et qu'au travers justement de la diversité du costume et de la langue, c'est toute une région, c'est presque une patrie qui s'exprime. Et il ne faut pas oublier que jusqu'au 18e et jusqu'à la fin du 19e siècle, notre Bretagne, à l'heure actuelle, a été une des plus belles régions de France qui a apporté, en vecteur économique à la France, les plus belles choses qu'on puisse faire, au-delà de la faïence, des importations de céréales, de tissus. On était en pleine charnière dans le circuit hanséatique avec les Anglais, etc., avec les États-Unis. La Bretagne a toujours eu à la fois une vocation maritime, parce que c'est une des plus grandes façades maritimes de la France, avec tout son vecteur économique d'échange avec le reste de la France. Et donc, la diversité, elle s'exprime par le nombre, comme vous le soulignez tout à l'heure, le nombre de costumes. Mais bon, je dirais que la richesse d'un pays, c'est la richesse de ses costumes, de ses habitations, de cette tradition. Et la Bretagne, Dieu sait qu'elle en est riche.
Mais pour aller plus loin là-dessus, moi je vous invite à lire dans Breton d'ailleurs notre dossier que nous a écrit Yannick Le Bourdonnec, qui est rédacteur en chef d'un canard économique assez connu, de l'Enjeu des Échos, et qui parle de la Bretagne en tant que nouveau dragon celtique. C'est-à-dire, on parle toujours des nouveaux dragons pour les pays d'Asie du Sud-Est. Là, réellement, il y a des textes avec un certain nombre d'éléments à l'appui qui vont tout à fait dans ce sens. C'est-à-dire un sens un peu paradoxal sur la France qu'on connaît à l'heure actuelle.
Est-ce que c'est vraiment sérieux de dire qu'il y a une dynamique économique et industrielle plus forte en Bretagne que dans les autres provinces de France?
Ah, oui. Je crois que là, pardon Jérôme, mais je crois que c'est vrai qu'on a avant tout une grande qualité en Bretagne, c'est qu'on a un savoir-faire. On a une puissance, je dirais, intellectuel, pardon pour les autres régions, ça n'est pas méchant ce que je dis, mais la Bretagne est toujours une grande patrie de recherche. On a été les premiers à avoir, au niveau télécommunication, être à la pointe du progrès avec Alcatel, avec Thomson. L'armement a toujours été à la pointe en Bretagne. Donc la Bretagne a toujours été terre de recherche et de développement industriel, en offrant en plus, je dirais, une qualité de vie qui est propice aux chercheurs, ce qui est fondamental en plus. Et c'est vrai que depuis des années, sans remonter très loin, mais depuis le général de Gaulle, depuis la 4e et la 5e République, toutes les industries innovantes ont été d'abord implantées en Bretagne, avec, je vous dis, ce vecteur qui est le savoir-faire, l'intelligence sur place. Il n'y avait pas à déplacer ce genre de choses.
Enfin, quand on va dans la Argoite, par exemple, moi, je suis allé il y a un an ou un an et demi, et j'avais fait un papier en rentrant épouvanté, littéralement, dans le Libre Journal, parce que j'ai découvert un pays mort, absolument mort. Tous les environs de la forêt de Brocéliande sont, c'est un pays totalement maléficié. Oui, et pas maléficié par des lutins ou par des lépreschons, mais maléficié par
c'est vrai.
Les gens qui l'ont tué. Si vous voulez,
c'est pas général sur toute la Bretagne. Bon, toute la région de Brocéliande, il y a des initiatives, comme par exemple celle de Paul Ancelin. Bon, Paul Ancelin a essayé de prendre directement à sa charge tous les jeunes qui sont au chômage. C'est-à-dire, il a pris un cabinet de chasseurs de têtes en prenant tous les jeunes diplômés qui étaient dans sa région. Et réellement, il y a une boîte qui s'occupe de leur chercher des jobs. Mais pour revenir sur la Bretagne, parce qu'il est certain qu'il y a certaines régions qui sont moins développées que d'autres, et bon, c'est évident. Mais il y a des choses tout de même assez frappantes. Quand on prend les trois premiers groupes de distribution français, ils sont bretons, c'est Intermarché, c'est Leclerc, c'est d'autres groupes. En ce qui concerne l'agroalimentaire, en ce qui concerne la culture, la première région exportatrice française, c'est la Bretagne. Il y a plein d'éléments comme ça qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu, parce que le breton, en règle générale, est relativement discret. Mais en termes de réussite, effectivement, c'est un pays où il y a énormément de réussite en PME, PMI. Pas forcément sur des grands groupes, bien que on a l'exemple de Citroën avec l'ami Genovese qui s'en occupait pendant longtemps. Bon, il y a l'Institut de Locarn qui œuvre énormément aussi sur tout ce qui concerne la promotion de la Bretagne. La Mirceb aussi sur l'international.
Et la région.
Ce que je veux dire, c'est ils ont des propres réseaux, des propres dynamismes qui fonctionnent très très bien.
Mais votre initiative, elle est reçue comment? Par les forces économiques, comme on dit aujourd'hui?
Bon, les forces économiques, je vous dirais une chose, c'est qu'ils nous suivront si on réussit. Bon, si on réussit, tout le monde sera d'accord avec nous. En revanche, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a énormément de clubs, d'associations, d'organismes qui nous suivent, dans la mesure où ils pensent que il y avait réellement un besoin de ce magazine, qui allie à la fois et le côté business et le côté emploi, parce que le côté emploi est une chose très importante. Dans chaque numéro, on sort entre 2 et 4 pages d'offres d'emploi à l'international. Bon, c'est quelque chose de tout à fait important, et connaissant les problèmes de l'emploi à l'heure actuelle, on essaye de le développer considérablement.
Est-ce que un industriel ou un créateur d'entreprise breton qui est installé à l'étranger va avoir le culot, s'il est confronté à plusieurs candidats pour un poste, de choisir son compatriote de préférence aux autres?
À mon avis, très certainement, sous réserve qu'il ait les mêmes compétences. Hein. C'est le petit plus, c'est la cerise sur le gâteau.
À compétence égale, voilà. C'est bien ce que je voulais dire. Bon, eh ben, en tout cas, c'est une belle revue. Pourquoi avez-vous choisi un grand format comme ça?
Bon, on a choisi un grand format pour une raison très simple, c'est que, ayant été longtemps expatrié, je me rendais compte que quand on pense au pays entre guillemets, on aime bien avoir des photos. Et ces photos, plus elles sont grandes, plus on aime. Et donc, on a choisi un format qui est grand, une qualité de papier qui est, à mon sens, très bonne. Et des photos, de excellentes, et qui reprennent un peu tous les visuels et tout ce à quoi on peut penser en étant l'étranger, avec en même temps des côtés comme dans ce dernier numéro, on a fait un digest de Brest 96 pour parler des bateaux qu'on a vus là-bas. On essaye à chaque fois d'avoir un côté très visuel, très vivant.
Alors la partie culturelle est très belle, elle est très bien faite d'ailleurs, il y a une rubrique de livres, bien sûr, une rubrique de musique, il y a une chronique d'histoire bretonne.
Tiens, d'histoire bretonne, il y a un auditeur qui nous dit que l'histoire de France a été falsifiée. Quand la duchesse Anne a épousé successivement deux rois de France, elle a en quelque sorte annexé la France à la Bretagne.
Oui, complètement.
Et c'est ainsi que la France devrait même s'appeler la Grande-Bretagne.
Elle n'a pas tout fait tort, tout ça fait tort.
Merci Jérôme Pinel, merci Monsieur
Lénoret.
Lénoret, c'est vraiment très breton ça. Pinel non, hein. Pinel c'est irlandais.
Pinel c'est irlandais, hein? Absolument. Bon.
C'est bien. En tout cas, deux beaux celtes. Et alors, je dois dire, puisque vous parliez de photographie dans breton d'ailleurs, je vais quand même me permettre le petit coup de pied de l'âne. Je crois que la plus belle photographie de ce numéro, c'est la photographie qui illustre la page consacré à Alcatel Business System. À Brest, les télécommunications se déclinent à l'international. Et il y a une photo qui fait la moitié de la page, qui est un superbe coucher de soleil derrière une mosquée.
On s'y attendait un petit peu.
Mais non, mais c'est normal. Il ne faut pas oublier que c'est tout de même la Bretagne qui est le pays qui a le moins tout de même de travailleurs immigrés.
C'est pour ça que vous avez
fait une photo de mosquée. Et qui s'exporte le mieux.
Merci. On va donner l'adresse quand même avant à laquelle on peut s'abonner. L'abonnement est aussi cher que la revue est belle ?
L'abonnement est à 200 francs pour 11 numéros. Je crois qu'on est très raisonnable.
Je me demande comment vous pouvez faire. Ça, franchement, il faudra me donner
compte
le secret.
On a voulu un abonnement qui soit accessible à tous. Et plus nous serons abonnés, mieux nous serons.
Oui, ça c'est le cas de beaucoup de journaux. Mais là, franchement, 200 francs pour une revue aussi belle et avec autant de couleurs, ça relève du miracle. Ou alors
on tire les tarifs complètement. C'est-à-dire, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, si on a un produit d'excellente qualité qu'on vend très très bon marché, on va voir des tas d'abonnés, tout au moins c'est ce qu'on espère.
Oui,
et à la suite de ça, ça nous permettra, de par la quantité, de pouvoir maintenir et développer le journal.
Ben c'est bien, ben je vous souhaite de réussir. Ça s'appelle Breton d'ailleurs, Braise Mabro.
Et où on peut l'acheter ?
Journal d'information des Bretons expatriés, c'est-à-dire des Bretons qui habitent à l'est de Rennes, pratiquement.
Si je peux me permettre un tout petit encarté sur le niveau de la distribution, et je sais que vos auditeurs seront peut-être contents. On le trouve en général principalement dans les kiosques de la gare Saint-Lazare, où est distribuée la revue Ouest France et
le quotidien
Ouest France et le Télégramme, ainsi qu'un certain nombre d'adresses que il serait peut-être très très long de dire sur l'antenne. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au journal. En appelant la radio et vous aurez toutes nos coordonnées.
On va les donner tout de suite parce que ce sera plus simple.
Voilà.
Donc l'adresse c'est 11 rue Carpeau.
Absolument.
Du Gond.
11 rue Carpeau.
75018 Paris. Le 18e. Téléphone 4228 11 11 avec le 01 devant. 01 4228 11 11 et le fax 01 4228 19 29. Breton d'ailleurs. 200 francs les 11 numéros, frais de port inclus. Merci messieurs, on va vous quitter avec encore un petit morceau de musique celtique. Tiens, si Patrick veut bien nous donner ça. Gay, hein?
Tiens, dis donc, il y en a.
Nicolas, ça n'a pas l'air de lui plaire du tout.
Est-ce que vous avez pensé à rapporter les, les références de celui que vous aviez passé quand Jean-Marie Le Pen était...
Mais non, c'est, je vais dénoncer, c'est Lugan qui l'a, ce disque. Et il faut
il est introuvable. Alors. Voilà. Donc, si c'est ça, il est introuvable. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Introuvable.
Il n'a pas. Bon, ben, on va faire sans.
Plus.
Alors, celui-là, ce disque-là, c'est Trione, arrangement Trian. Et son numéro, c'est un disque Marzel. Et fou, son numéro, c'est PG899. Voilà, je crois que c'est ça. Je sais, moi, je connais pas les numéros des. Je sais pas où on lit les numéros de disques. Mais enfin, ça, Patrick vous le dira. C'est aux éditions Chapelle. Voilà.
Un auditeur vous rappelle qu'il y a 40 ans aujourd'hui, les communistes écrasaient les Hongrois. Jean-Marie Le Pen a été invité dimanche prochain pour prononcer un discours là-bas.
C'est bien vrai, oui. C'est, tiens, comme on oublie
et
les choses.
Et quelqu'un vous demande, connaissez-vous ce mensuel d'information intitulé La Une, dont le numéro 1 vient de sortir?
Je l'ai vu, c'est M. Lafont qui fait ça. Ça m'a l'air très correct, très honnête, dans la mesure où il rapporte mot pour mot ce que lui disent les interlocuteurs qu'il rencontre. Alors c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est très très rare qu'on fasse ça, qu'on publie des interviews de cette manière. Autrement dit, c'est du langage brut de décoffrage, comme on dit. Lafont interviewe la personne et publie très exactement ce que cette personne répond, avec les redites, éventuellement les fautes de français, les approximations, les retours en arrière. C'est très curieux. Alors, la première interview, c'est Jean-Marie Le Pen. Il y a une grande, longue interview de Jean-Marie Le Pen qui est tout à fait intéressante. Et ça va très bien. Parce que Le Pen est un orateur naturel qui parle un français parfait. Par conséquent, ça passe très très bien. Mais je crains le pire quand ça va être certaines autres personnes. Je ne citerai pas de nom, mais ça va être dramatique. Parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire vous viennent aisément. Mais c'est pas le cas de, enfin c'est le cas de tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui conçoivent rien du tout et qui le disent très longuement. Voilà. Donc, mais ça m'a l'air très très bien cette revue. Nicolas Bonnal, bonsoir.
Bonsoir. C'est
donc le livre dont auquel on va parler, par exemple, ça aurait été corrigé dans une interview, dans La Une, il publie directement.
Ah bon.
Vous voyez, c'est la damnation des stars. Est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est le résultat d'une enquête longue, de longues recherches, hein, ce livre, est-ce que vous avez l'impression que réellement des grandes vedettes du monde du spectacle, que ce soit du cinéma ou de la musique, ont, disons-nous, signé un pacte avec les forces du mal pour réussir en échange d'une prosternation devant ces forces du mal et en échange d'un service rendu?
Alors, il y a le don symbolique de soi-même au diable. On peut donner l'exemple de Sting, qui a dit qu'il avait eu l'impression, la première fois qu'il avait eu du succès, d'avoir vendu son âme au diable. Il y a...
Alors, Sting, je crois que pour nos,
oui,
pour nos auditeurs, il faut
de police, préciser. Hein, le chanteur de police.
Un chanteur de...
Oui,
de rock'n'roll,
post-punk. Hein, c'est un groupe qui a été monté artificiellement, comme beaucoup de groupes, par des marchands de fringues à la fin des années 70, pour essayer de récupérer la jeunesse. Puisqu'on voit ce que dit Debord, c'est que la société a réussi à transformer l'insatisfaction en marchandise. Et c'est une très belle phrase et qui explique parfaitement tout le succès de la rébellion au cinéma ou dans la télévision ou évidemment dans la chanson, dans la musique pop à la fin des années 60. C'est-à-dire au moment où il y a cet échec de la révolution 68arde un peu planétaire, quoi, de la génération du baby boom, on lance tous ces produits qui flattent l'insatisfaction des jeunes et on crée une nouvelle typologie de marchandises qui est basée sur la commercialisation de sons et d'images qui évoluent dans le monde subtil. Mais pour répondre à votre question, je cite plusieurs fois dans le livre le nom d'artistes qui ont eu maille à partir réellement avec ce qu'on pourrait appeler la contre-initiation ou avec des pratiques de magie noire. Brando, sa fille a reconnu au moment du procès qu'il pratiquait le vaudou. Lui-même a perpétré des actes assez répugnants avec des fœtus de ses maîtresses qu'il avait fait avorter dans les années 50 lorsqu'il était encore acteur de théâtre. entre autres détails scabreux, on peut citer également donc les Beatles aussi, puisque notre ami John Lennon, donc qui a été assassiné en 1981 dans l'immeuble où on a tourné Rosemary's Baby, donc à New York, a été donc. Je rappelle que ce film qui a été tourné par Polanski en 1968 est une description de la naissance de l'Antéchrist. Hein, donc c'est quand même un sujet relativement sérieux dans ce domaine. Et Lennon, lui, pratiquait également la magie noire, des thérapies psychanalytiques liées au cri primal. Cette affaire de psychanalyse, d'ailleurs, est intéressante puisqu'elle est liée au cri primal. Marilyn Monroe a pratiqué la psychanalyse et elle est morte de soins intensifs, hein, si j'ose dire, psychanalytiques donnés par le docteur Grinson à l'époque. Et elle pratiquait 2 cures de psychanalyse par jour. Or, on a baptisé dans les milieux traditionnels la psychanalyse comme science anti-chrétienne, une espèce de sacrement du diable, parce que qui a psychanalysé le premier, le docteur Freud, c'est-à-dire qui lui a demandé de descendre au tréfond de lui-même pour appliquer ces recettes inquiétantes. Et cette question est importante dans le domaine des médias, parce que la plus grande école d'acteurs de l'après-guerre, c'est l'Actor Studio, qui est formé par Lee Strasberg, réfugié politique en 1938, par Elia Kazan, le fameux directeur d'acteurs des grands films, là, Sur les quais, et d'autres chefs-d'œuvre des années 50-60, mais dont le frère était aussi psychanalyste. Et ces gens-là ont pour but de descendre au tréfond d'eux-mêmes et de, en quelque sorte, pour reprendre la formule de Virgile, si je ne peux pas passer par le ciel, j'essaierai de faire bouger l'enfer, donc de défendre au tréfond le plus bas de la personnalité pour faire remonter des remugles et essayer après d'agir sur un plan magique dans la société. Alors pour répondre encore à votre question, on a des exemples de chanteurs qui ont pratiqué la sorcellerie, comme Jim Morrison qui a fait un mariage sorcier, qui avait avec une journaliste de radio qui et de presse écrite qui s'appelait Patricia Kennelly, et il a copié le mariage d'Henri VIII, l'heureux fondateur de l'Église anglicane, et d'Anne Boleyn, en pratiquant une messe néo-gothique et sataniste.
Enfin, lui, il n'avait pas épousé sa fille, quand même.
Oui, il n'avait pas épousé sa fille. Il était plus sain qu'à bien des égards, d'ailleurs, puisque, après tout, il se réclamait aussi de Céline et de Nietzsche, donc pas forcément de personnalité suspecte. Mais on peut aussi citer l'exemple de Jane Mansfield, qui pratiquait des messes noires dans sa villa du Pink Palace à Los Angeles. D'ailleurs, c'est amusant de voir le nombre de catastrophes qui se produisent dans cette ville.
Oui, c'est ce que tous les noms que vous évoquez sont des noms qui ont été ensanglantés ou qui ont connu des destins tragiques.
Il y a un
soit Lennon qui était assassiné, oui. Polanski,
elle est morte décapitée
dont la
voiture.
Femme est morte assassinée par Manson. Jane Mansfield qui est morte décapitée, oui. Marilyn Monroe qui est morte ou assassinée ou empoisonnée. Oui. Ou trop bien soigné, on ne saura jamais.
Il y a aussi la mort la pendaison de la fille de Brando, puisque je parlais
de son fils assassine son gendre et sa fille se suicide. Et vraiment, on sent qu'il y a là-dedans une espèce d'effroyable grouillement de puissance noire.
On touche un domaine qui est un domaine extrêmement suspect, qui est le domaine de la manipulation subtile. Alors on s'expose automatiquement à des chocs en retour qui étaient connus des anciens, qui étaient connus par les gens qui pratiquent les exorcismes, que là on ne connaît pas puisqu'on est en face d'un milieu qui est complètement détaché de toute tradition religieuse évidemment, sauf d'une religion protestante américaine complètement déchaînée qui donne des dingues comme tous ces chanteurs des années 50 qui ont promu un petit peu le rock'n'roll, bon un peu Elvis Presley qui était un paranoïaque de premier ordre qui collectionnait les armes à feu, qui avait un rapport à la sexualité complètement fou, qui était en adoration devant de ses chimpanzés, enfin on a des personnages hein, là-dedans, on a Little Richard aussi qui lui a toujours hésité comme d'autres musiciens anglo-saxons. Ou un noir américain entre une espèce de religion paranormale complètement excitée et en même temps une espèce de volonté dionysiaque de déchaîner complètement cela. Alors c'est important cette référence à Dionysos, je l'évoque plusieurs fois dans le livre parce que j'ai retrouvé des textes d'Erasme qui datent du XVIe siècle où il parle des différents agissements que l'on peut exercer sur les foules par rapport à la musique. Alors il y a une manipulation subtile qui est celle qu'on connaît dans les églises où il s'agit d'inviter les âmes à la prière, et puis il y a une manipulation déchaînée quoi, qui doit déchaîner des forces obscures. Et cette importance de la musique d'un côté positif, parce que j'examine aussi quand même l'aspect positif de certaines stars, je pense par exemple aux gens du domaine celtique irlandais, puisqu'on parlait tout à l'heure des Celtes, à Enya, à Mike Oldfield, à d'autres artistes Clannad en Irlande, qui eux sont moins connus, sont moins des stars comme par hasard, mais qui jouent dans un domaine qui est celui d'un domaine plus traditionnel quand même, hein, avec des références chrétiennes, dans le cas par exemple de Enya, qui est moyennement connue en France, alors qu'elle a quand même vendu 20 millions d'albums dans le monde, mais qui est relativement peu médiatisée parce qu'elle intéresse moins les gens que les agissements malsains de Madonna.
Oui, un auditeur nous fait remarquer effectivement quelque chose un paradoxe au moins. C'est, il nous dit, la très sulfureuse Madonna vient de prénommer sa fille Lourdes Maria, ce qui veut dire Maria de Lourdes, Marie de Lourdes, qui est une référence à un lieu d'apparition. Est-ce que ça vous inspire un commentaire?
Oui, parce que j'étais à Londres pendant quelques jours, donc j'ai lu un peu la presse là-bas et elle parlait d'un besoin de protection. C'est quand même curieux. Hein. Elle s'est sentie menacée, extrêmement dépressive, et elle a eu besoin de donner un nom chrétien à sa fille, qui n'a pas été obtenue, sa fille, dans des conditions qui très chrétiennes. Mais elle s'est dit, je vais essayer d'attirer un peu la protection comme cela. Donc elle a joué un peu. Mais elle, c'est un exemple de personnage qui s'arrête à temps, Madonna, on a l'impression. Elle a joué un peu un trip de provocation sexuelle, voire à la limite sataniste, jusqu'à une certaine période. Mylène Farmer a fait la même chose en France. Et puis elle s'est arrêtée brutalement lorsque il y a eu un assassinat chez Polydor, hein, puisque un illuminé est arrivé, a commencé à mitrailler l'étage du bas, a tué le réceptionniste. Et elle a reculé depuis. Hein, elle a joué moins la provocation dans les clips, elle a joué moins de références sexuelles. Et c'est quelqu'un qui est devenu plus prudent, qui a une espèce de message céleste, ou pas forcément céleste, un message infernal, disant tu dois t'arrêter. Il y a un film dont je voudrais parler juste, qui est très important, c'est Angel Heart, avec Robert De Niro, Mickey Rourke, qui est inspiré d'un livre qui est un chef-d'œuvre dans son genre, qui s'appelle Shabbat à Central Park, écrit par un romancier noir américain, enfin du roman noir américain, qui s'appelle William Yorksberg. Donc le film, c'est le film d'Alan Parker qui est sorti il y a une dizaine d'années, et il s'inspire un petit peu de la vie de Frank Sinatra. Donc c'est un chanteur qui s'appelle Johnny Fontane qui disparaît pendant la guerre au moment où il doit payer à Louis Cypher son dû, c'est-à-dire son âme. Il vole l'âme d'un autre soldat américain qu'il sacrifie en Sicile, et terre natale donc de Sinatra, et il disparaît. 15 ans plus tard, on envoie un détective qui s'appelle Harry Angel, payé par Louis Cypher, à la recherche de ce mystérieux Johnny Fontane. Et il se trouve que c'est lui-même. C'est Harry Angel. Donc ah ouais. c'est un film, un sujet extrêmement pointu qui montre à quel point on essaye à un moment donné d'échapper à une espèce de vocation. Parce que ce sont des gens qui ont tout, en théorie, les stars, pour être heureux, et qui sont en général formidablement malheureux. Soit parce qu'il y a des atrocités qui les frappent. Je pense par exemple au groupe Led Zeppelin qui avait des références sataniques avec la chanson Stairway to Heaven qui avait été déjà décryptée à l'époque comme une chanson luciférienne. La plupart des gens du groupe sont morts, ou les enfants sont morts, ou ils sont vraiment frappés violemment. Et puis ils se mettent après ça en recul et ils essayent d'éviter justement de... Ils ont compris jusqu'où ils sont allés, puisque le chanteur, le guitariste du groupe Jimmy Page était un grand amateur d'Aleister Crowley, le célèbre mage noir du début du siècle anglais, et il avait essayé de... Il avait acheté plusieurs des châteaux, des résidences de Crowley, et il y a eu un moment où dans le groupe, la moitié des gens sont morts, les road managers, l'enfant du chanteur Robert Plant, qui est mort d'un mystérieux virus à 5 ans, en 1978, le batteur Jimmy Bonham, qui est mort lui aussi d'un excès d'alcoolisme, il avait trop bu de brandy un soir. Et puis après ça, le groupe a complètement disparu, s'est volatilisé. Puis à un moment où ils essayent de s'arrêter et ils tentent de retourner en quelque sorte dans le droit chemin, ou en tout cas de se faire oublier par les forces obscures.
Alors, une dernière question, Nicolas, parce que là, on va pas raconter votre livre, les auditeurs peuvent le lire. Le livre, il est passionnant, c'est un fourmillement d'exemples, de cas, d'anecdotes. oui, de d'histoire et de noms de célébrités, de noms de gens qu'on voit à la radio, à la télévision, qu'on entend à la radio toute la journée. Mais tous ces gens-là sont des gens du show business, comme on dit. C'est-à-dire, oui, sont des comédiens. Bon, ou des comédiens, ou des chanteurs, ou des acteurs de cinéma. Est-ce que vous croyez que, si on pense que ces gens-là ont passé des pactes avec les puissances infernales pour réussir, est-ce que vous croyez que certains hommes politiques ont fait la même chose? Est-ce qu'il est vraisemblable que, par exemple, la légalisation de l'avortement soit une espèce de salaire versé aux puissances infernales en échange d'une réussite politique?
Dans le cas de l'avortement, il s'agit d'une espèce d'holocauste rituel pratiqué à grande échelle et qui était conçu comme une manifestation des forces du mal par les Babyloniens. Il y a un livre de Mircea Eliade là-dessus sur les religions de Babylone qui l'explique très bien. Cela me paraît certain. J'ai étudié déjà, on en a parlé l'an dernier dans mon livre sur Mitterrand, grand initié, entre guillemets grand initié, parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, qu'il y avait des rapports entre l'occultisme et la politique. Il y en a eu entre De Gaulle et l'occultisme, entre Hitler et l'occultisme, entre le communisme et l'occultisme. Donc il est clair que toute la politique moderne, et toute la, on peut même parler de l'exemple de la grande industrie moderne, hein, où il s'agit essentiellement d'un raisonnement collectif, de création de réseaux, de création de nouveaux produits. Et c'est une ascendance tubal-caïnite, hein, pour se référer à la Genèse. Tout ce système qui était mis en place a une signature extrêmement suspecte, en effet.
Une question précise. Un auditeur dit, avez-vous des renseignements sur la malédiction qui a frappé Eric Clapton?
Oui. C'est un de mes amis, Jean-Emile Néomé, qui avait écrit un livre sur Clapton. C'est son fils, Connor Clapton, qui est tombé du 59e étage. Et on interroge Clapton pour lui demander un petit peu ce qu'il pense de la vie d'artiste. Clapton qui est passé par tous les excès, qui a été alcoolique, qui a été drogué notoire, et qui a réussi à renaître de ses cendres jusqu'au moment où son fils est mort alors qu'il était âgé de 4 ans. Et il disait qu'ils étaient dans un métier où il y avait naturellement plus de suicides, plus de dépressions que dans les autres. Parce que c'est un métier d'artiste, c'est un métier de sensibilité yin, en quelque sorte, extrêmement d'émotions, de grandes douleurs. Et donc ce sont des gens qui souffrent éminemment. Clapton a quand même consacré une chanson à la Vierge Marie. Il est politiquement incorrect par rapport aux critères gauchistes qui sont à la mode dans la jet set du show business. Hein. Mais donc c'est quelqu'un qui est sympathique à bien des égards, mais qui a payé un très lourd tribut aussi. Hein.
Alors on nous demande de rappeler l'existence du livre de Mgr Balducci, Adorateur du diable et rock satanique, qui est paru aux éditions Pierre Tecky et qu'on trouve chez Duquesne Diffusion. Je crois que c'est un livre que vous connaissez,
oui,
et qui est un livre important, je crois aussi. On évoque l'oratorio de Paul McCartney, Liverpool Oratorio, qu'une auditrice travaille avec sa chorale et elle demande ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est quelque chose qui est chargé ou pas.
S'agissant de McCartney, certainement, quand même.
En tout cas, méfiance. Bravo pour votre invité. Toute vie publique est placée sous l'emprise du satanisme, sous couvert de freudisme scientifique, nous dit une auditrice, y compris les milieux politiques, ce qui explique beaucoup de choses.
Je crois que c'est vrai ce qu'elle dit, parce que la vie publique n'est pas la vie publique d'avant à cause des médias. Et donc, on entre dans un domaine qui est celui des ondes, et donc c'est celui de la manipulation.
Merci Nicolas. Alors, le titre du livre, La damnation des stars, c'est paru chez
Philippe
Aki. Et je rappelle que Nicolas Bonal publie toutes les décades dans le libre journal de la France courtoise une chronique qui s'appelle R-E-2-R-E-S, qui est un synonyme de trace, de piste, qui est une direction de réflexion.
C'est ma dernière chronique est sur Joseph de Maistre, où j'explique un petit peu comment il considère les républicains il y a 2 siècles. Et il n'y a absolument rien qui a changé depuis cette époque.
C'est prodigieusement clairvoyant.
Et rappelez-nous le nom de la revue qui publie le Jean-Marie Le Pen dans son premier numéro.
La Une. La Une.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 23 octobre 1996,
diffusé dimanche 29 novembre 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Je cause parce que je salue l'abbé.
C'est pas une raison.
Pour une fois qu'il y a quelqu'un de bien
sur
dans
mes
studio.
Annonces. Bon.
Madame, bonsoir.
Ah, si.
Oh, je vous entends mal.
Ah.
Alors voilà, je vous entends bien. J'ai une simple question à vous poser. Êtes-vous hystérique?
Eh bien, j'ai entendu dire que j'étais hystérique.
Bon, donc vous confirmez.
Ou vous confirmez pas. Mais c'est assez amusant parce que je n'avais jamais entendu à mon propos cet adjectif.
Mais c'est un adjectif qui ne s'applique pas aux hommes, il faut bien le dire.
Oui, en général.
En général, hein.
Oui.
Dans les conditions normales de température et de pression, et dans les conditions normales de l'anatomie masculine, l'hystérie n'est pas adaptable, n'est pas applicable à l'homme. Or, vous êtes un homme, Marc.
Eh bien, je crois, à moi, vous savez qu'ils m'ont, ils ont farfouillé dans mon ventre, peut-être qu'ils m'ont transformé.
Ah, allez savoir.
Allez savoir.
Donc, cette plaisanterie, alors je précise pour les auditeurs qui n'auraient pas entendu que cette plaisanterie est la démonstration de l'ouverture extraordinaire de Radio Courtoisie, puisqu'à 2 jours d'intervalle, ou plutôt à 1 journée d'intervalle, on peut recevoir quelqu'un qui traite quelqu'un d'autre d'hystérique et le lendemain recevoir l'hystérique pour lui poser la question de savoir s'il l'est réellement. Voilà. Est-ce que vous avez compris, Daniel Ami?
Moi, j'ai pas compris.
J'ai rien compris.
Ça,
il me regardait d'un air de quelqu'un qui ne comprend pas.
C'est parce qu'il n'écoute pas tous les jours Radio Courtoisie.
Non, mais, je crois qu'il
non, mais si vous voulez, je peux reprendre mon avion et rentrer chez moi. Ça, c'est vous qui décidez.
Ah bon? Il a complètement craqué. Bien, Marc, vous venez de publier un livre. Ah oui, je dois rappeler, parce que beaucoup d'auditeurs le demandent, le titre de du livre de Bonal, de Nicolas Bonal. Ça s'appelle, je vais le dire lentement, La damnation des stars, The Damnations of the Star, comme dirait le président de la République, avec une faute bien entendu, hein. Donc La damnation des stars, c'est paru chez Philippe Aki. Voilà. Mais vous, votre livre, c'est pas La damnation des stars, c'est Lettre de Monsieur Pascal sur la Nouvelle Église. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est un pastiche, c'est même pas un pastiche d'ailleurs, c'est la continuation. On a l'impression de lire du Pascal. Comment avez-vous fait pour obtenir cette langue parfaitement pascalienne?
Oui. Eh bien, c'est le résultat d'une collaboration entre Blaise Pascal et moi. Et comment j'ai fait pour arriver à cela? J'ai commencé par lire tout Pascal en relevant
chacun prend son
les
plaisir,
mots
il le trouve.
Et les expressions. Et j'ai constitué des lexiques. Mais des lexiques dans le sens du thème, pas de la version.
Mm-hmm.
Donc, un lexique, il existe des lexiques encore très approximatifs, enfin très très brefs, du français classique, mais il n'en existe pas, où on voit le mot français actuel et sa traduction, ensuite sa traduction en français classique. Donc, j'ai dû faire édifier des lexiques. Je l'ai fait non seulement pour Pascal, mais pour quelques-uns de ses contemporains, car j'ai voulu mettre beaucoup plus de mouvement qu'il n'en a mis, c'est-à-dire dépeindre des scènes, raconter des scènes, et c'est, comme il ne le fait pas beaucoup, j'ai dû emprunter à des gens comme Furtière, à des gens comme Scarron, comme Madame de Sévigné et beaucoup d'autres, ce qui m'a conduit à faire des lexiques variés que j'ai ensuite mélangés pour avoir un instrument de travail. Alors j'ai dû aussi
C'est la langue d'une certaine société à une certaine époque.
Oui, et certainement
l'époque de Pascal. Donc.
La plus belle époque sous ce rapport.
Alors je voudrais en lire un tout petit extrait pour montrer aux auditeurs à quel point c'est intelligemment fait. Comme je fermais la lettre que je vous ai écrite, je m'avisais que sans doute je m'étais faufilé à C avec un curé indévot et maléficié, comme la Sainte Église en renferme quelques-uns, et je voulus m'instruire de bonne sorte de la disparition du ciel et de l'enfer dont il m'avait donné des nouvelles aussi inouïes.
je fus trouvé sans remise un théologien de grand bruit, monsieur B. D., qui fait des leçons en cette science. C'est l'une de mes anciennes connaissances que je voulus renouveler exprès. Il me fit 1000 caresses, ensuite de quoi je lui contai la dispute que j'avais eue avec son confrère et le priai d'éclaircir cette affaire. Je suis surpris, dis-je, de cette plaisante maxime d'après laquelle Jésus n'aurait parlé qu'en images, et de ce que nous ne devons pas croire tout bon ce qu'il a dit dans les évangiles, sous ombre que ces docteurs graves ont avancé le contraire après lui. Voilà bien de vos raisons, dit le bon père. Ces hommes savants et très catholiques sont en bon prédicament dans les lieux où ils enseignent la doctrine, à Tübingen, à Utrecht, à Fribourg et jusque dans Rome. Vous ne pouvez faillir en suivant leur opinion. Alors au début, on est surpris, et puis quand on avance dans la lecture, on s'aperçoit que c'est une écriture complètement cristalline, et on comprend parfaitement. C'est d'une très grande intelligence. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de dire? Vous êtes d'accord, je pense?
Je suis tout à fait d'accord. Une chose que je voulais ajouter là, à propos du passage que vous avez lu, c'est que ce BD, ce théologien de ma connaissance, existe.
Oui, j'imagine.
Effectivement.
J'imagine qu'il
oui.
existe.
Et oui. J'ai eu des échanges de lettres, c'est un ancien camarade, j'ai eu des échanges de lettres il y a quelques années avec lui, et je lui ai envoyé mon livre qui va bien me surprendre certainement. Car c'est un théologien qui travaille, enfin c'est plutôt un philosophe qu'un théologien pour tout dire, et qui est prêtre, et qui est maître des recherches au CNRS. Donc, vous voyez quel genre je vous cite, comme oui. disait Pascal.
Oui, vous avez de bonnes références. C'est votre livre est publié chez Iotacom, c'est-à-dire
oui.
votre propre maison d'édition.
Oui.
Ce qui est la meilleure solution.
C'est la meilleure solution pour
toujours mieux
servi
par soi-même
que les éditeurs ne sont pas obligés de comprendre. Je me suis aperçu que, enfin, ils ne comprenaient pas très bien ce que ça pouvait donner.
Alors, je rappelle pour mémoire.
Je voulais juste savoir si l'illustrateur était quelqu'un de votre famille, Marc.
Ah, alors ça, c'est une autre tête de la Mafia d'Em. C'est un de mes frères.
L'innombrable Mafia d'Em. Je rappelle que Iotacom publie aussi votre lettre confidentielle d'information religieuse qui s'appelle Iota Unum. Et que cette lettre d'information religieuse confidentielle paraît toutes les 15 jours et qu'on peut se la procurer à la boîte postale 50.
Ah, ça a changé. 1052.
Ah, c'était trop beau pour
oui,
durer.
Oui, oui.
La boîte postale 1052, 78-101, Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. C'est ça?
Oui, alors on peut maintenant enlever le CEDEX pour alléger. C'est autorisé.
Alors, une
on
question
peut donner le prix du livre de...
Ah bah oui, bien sûr, on peut donner le prix du livre qui est de 100 francs, ce qui doit faire 120 francs franco. Hein.
100 francs, et non, franco c'est 111 francs 50.
111 francs oui. 50 francs.
Vous voyez comme les choses sont précises.
Et alors, puisqu'on parle de franco, je signale que le livre de Nicolas Bonnal, non, je ne vais pas dire de bêtises sur cette période sombre de l'histoire d'Espagne, le livre de Nicolas Bonnal est disponible aussi au Libre Journal pour 140 francs franco. Il est beaucoup plus gros que le livre de Marc Dem, hein. La différence de prix est justifiée.
Bon.
140 francs franco, mais je vous en supplie, faites le chèque à l'ordre de Bonnal et pas à l'ordre de Libre Journal ou de Beckett, parce que ça nous fait des problèmes de comptabilité à n'en plus finir. Donc, chèque à l'ordre de Bonnal, 140 francs franco, vous recevrez la damnation des stars, et chèque à l'ordre de Marc Dem.
Non, de Iotacom.
De Iotacom.
C'est le contraire.
111 francs 50 pour recevoir franco. C'est très très joli. Recueil de lettres apocryphes de Pascal.
Il faut qu'on en parle un peu plus, peut-être. On
oui,
a
mais...
demandé que Marc vienne un jour
oui,
et peut-être
bien.
Qu'on fasse une espèce d'émission.
Il vaudrait mieux qu'il en parle là avec quelqu'un d'intelligent, donc je te
non,
laisse.
Non, mais il pourrait commencer un quart d'heure dans ta partie, puis continuer un quart d'heure dans la mienne.
Bon. Mais on pourrait demander à M. l'abbé de revenir pour nous dire ce qu'il en pense. Une ultime question. Pourquoi Salomon reçoit-il 666 talents tous les ans? Ce que nous dit, ce qui nous est dit dans Roi. Dans le...
Oui.
Alors pourquoi ceci, quel est le sens de ce 666 nous demande un auditeur.
Oui, je dois avouer que je n'en sais rien.
Bon, ah ben c'est une bonne réponse.
Oui, j'ai remarqué.
C'est une réponse honnête. Voilà. Moi j'aime bien les gens qui disent qu'ils ne savent pas.
Mais je ne vois pas. Il doit y avoir une explication.
Merci Marc. Alors, la prochaine fois, nous parlerons de votre lettre. Nous donnerons des informations sur le contenu de la dernière parution. Pour l'instant, je rappelle que vous venez de publier les lettres, un recueil de lettres apocryphes de Monsieur Pascal, lettres de Monsieur Pascal sur la Nouvelle Église, édition Iotacom par Marc Dem. À bientôt.
À bientôt. Allez.
Et je, ayant volé les 10 minutes de rigueur à Daniel Amiche, je me sauve, non sans vous dire à la semaine prochaine, et que Dieu nous garde.
Bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie et aux auditrices évidemment qui nous rejoignent pour cette deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Ce soir nous allons recevoir, enfin nous recevons d'ailleurs beaucoup d'invités. J'espère que le temps, on va essayer de gagner un petit peu de temps, de ne pas être trop bavard pour une fois. Mais j'ai souhaité que nous ayons ce soir un programme un peu éclectique, encore que... Je dirais il y a une espèce de fil rouge qui tient tout ça et qui me semble de bon aloi. Alors nous allons recevoir d'abord par téléphone, puisqu'il habite au loin, du côté de Montauban, Arnaud Jaïr, qui est peut-être pas connu beaucoup encore de tous nos auditeurs, mais qui est un garçon tout à fait sympathique et actif, et qui est le président du Centre Montoriol, puisque ce Centre Montoriol organise cette année un congrès au Matin de la France, donc qui va un petit peu récapituler tout ce dont nous avons parlé depuis déjà plus d'un an, et dont nous allons encore continuer à parler, à savoir bon Saint-Martin et Clovis, deux personnages qui sont aux origines de la France. Et puis nous recevrons également l'abbé Christian-Philippe Chanu, qui lui est l'espèce de pilier de l'émission, de pilier de cette station, puisqu'il vient souvent, il nous fait souvent l'amitié de venir nous voir. Il vient nous voir en tant que orateur de ce congrès Montoriol, mais aussi comme préfacier d'un livre qui est paru il y a quelques semaines ou un ou deux mois de l'abbé Mignot sur qui traite de la vie du duc de Bourgogne. Et puis chose promise, chose due. Nous recevrons également Philippe de Saint-Germain, dont la prestation radiophonique avait été un peu écourtée la semaine dernière, non pas tant de ma faute que de la faute de cette horrible chose qui s'appelle le chronomètre, n'est-ce pas? Puisque nos émissions ne font qu'une heure et demie, il faut absolument qu'elle ait le temps. Donc, on va avoir un petit peu plus de temps aujourd'hui pour développer le très grand colloque qu'ils organisent, que l'association pour la fondation de sciences politiques organise donc à Reims les 2 et 3 novembre prochains sur le thème « Le droit des nations ». Réponses à Jean-Paul II. Et puis nous recevrons en fin d'émission, j'espère qu'il aura le temps de s'exprimer également, Antoine Boulan, qui est docteur en histoire, professeur, et qui vient de faire paraître un livre vraiment très 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 beau livre sur les ministres et ministères du siècle des Lumières, un livre qu'il avait fait en coopération avec Arnaud de Maurepas, lequel malheureusement nous a quitté. C'est un petit peu une émission de dommage que nous ferons ce soir. J'espère que nous avons Arnaud Jaïr au téléphone.
Oui, tout à fait, Daniel.
Eh bien,
bonsoir.
Arnaud Jaïr, nous vous saluons depuis Paris et nous vous envions d'être dans une aussi belle région que celle, j'allais dire, où vous sévissiez, c'est un peu excessif, de celle où vous militez, où vous développez votre activité. Alors, je vous ai présenté comme président du Centre Montoriol. Peut-être, cela mériterait-il une petite explication pour nos auditeurs, parce que vous êtes une association à vocation plutôt régionale que national en vérité.
Voilà, c'est cela.
Et nous aimerions que vous présentiez rapidement le Centre Montoriol. Et pourquoi ce nom d'ailleurs?
Oui, ce dont je vous remercie, et à travers vous, les auditeurs qui nous écoutent et qui prennent un petit peu, qui font un petit peu attention à ce qui se passe dans ce midi lointain. Alors oui, le Centre Montoriol, c'est une œuvre de formation et d'action civique, mais aussi culturelle et spirituelle, de laïcs catholiques. C'est comme ça que nous avons l'habitude de nous présenter. Nous sommes principalement implantés et présents dans les régions du Midi et dans les régions du Sud-Ouest. Alors là, il y a une principale raison, c'est que nous entretenons entre nous des bons liens, et ce sont ceux de l'héritage commun sur le plan historique, sur le plan culturel. Je crois qu'il convient de mettre en valeur, que la mise en valeur de tout ce patrimoine soit présentée un petit peu autour de nous, parce qu'il est pétri de christianisme et que c'est une figure du génie du christianisme que de montrer ainsi les racines culturelles qui sont les nôtres. Et puis aussi, seconde raison peut-être plus pratique, c'est que nous avons à travers ce régionalisme une structure qui est une structure à dimension humaine, à taille réaliste, et qui favorise aussi les liens étroits de la région, qui sont souvent des liens d'amitié serrée. Nous nous définissons aisément, nous présentons Montoriol comme une amitié au service du vrai. Alors à travers des régions telles que les grandes villes de notre sud-ouest, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Agen, Montauban, Auch, Tarbes, Biarritz encore. Voilà, oui, nous avons voulu, si vous voulez, à travers tout cela, répondre à l'appel du Saint-Père, c'est-à-dire cette nouvelle évangélisation, qui est certainement un des soucis les plus présents dans le pontificat, et qui nous interpelle bien sûr tous. Nous sommes en quelque sorte appelés, embarqués bien sûr, mais appelés surtout, appelés à faire quoi ? Eh bien à faire du bien, je crois. Et dans cet ordre-là, nous mettons l'accent sur le plus précieux de nos biens, c'est-à-dire la formation intellectuelle, la réforme intellectuelle et morale, comme on a coutume de l'appeler dans nos milieux, dans la fidélité à son héritage chrétien. Mmh. Alors, dans ce midi, eh bien, ce sont des conférences, des cercles de formation, surtout pour les étudiants. Ce sont des initiatives assez diverses qui essaient de créer, en quelque sorte, si vous voulez, une dynamique du réconfort, de la conviction, cette amitié au service du vrai, dont le congrès pèlerinage de Lourdes, que nous évoquerons peut-être tout à l'heure un petit peu, oui, est la manifestation la plus visible.
C'est traditionnel, parce que ce n'est pas le premier congrès pèlerinage que vous faites, bien sûr.
Nous n'avons pas une périodicité annuelle, mais depuis 89, nous nous réunissons à Lourdes, grosso modo tous les 18 mois à peu près, et nous réunissons un milieu de participants qui sont des congressistes, mais aussi des pèlerins. S'ils viennent à Lourdes, c'est en grande partie pour cela.
Alors cette année, je dirais que le congrès présente une particularité assez significative. La première, ce sont ces dates, qui sont des dates quand même extrêmement symboliques, puisque vous allez vous réunir les dimanches 10 et lundi 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la fête de Saint-Martin, si
voilà.
Mes souvenirs
sont bons. Alors le 11 novembre,
bons.
Nous l'avons choisi. Alors, une raison pratique, celle du calendrier, c'est un jour férié qui allongeait le dimanche dans le bon sens, si j'ose dire.
Moi, j'aime beaucoup les jours fériés de cette nature,
vous voyez. Oui, c'est vrai, ça tombait très bien de ce côté-là. Et alors ensuite, évidemment, la coïncidence avec, la fête de Saint-Martin, voilà. Donc l'ouverture du 16e centenaire de sa mort. Alors pour nous, c'est très fécond et très riche. Puis c'est surtout, c'est un soldat du Christ, un Miles Christi, mais c'est surtout et principalement aussi, le patron de cette France chrétienne qui a été, à travers le baptême de Clovis, couronné. Si cette France chrétienne, si les chrétiens existaient dans les Gaules, avec Clovis, eh bien la France arrive, la France se met en place, mais Saint-Martin est évidemment une des figures les plus importantes de cette évangélisation.
C'est une préparation providentielle à quelque chose d'autre, bien sûr.
Voilà, et alors depuis le 11 novembre, tel que nous avons coutume de le célébrer dans notre pays aussi, fête patriotique et nationale, nous aurons le colonel Moinet pour nous parler du sacrifice de toutes ces générations de Français qui, à travers le don d'eux-mêmes dans le champ de bataille, ont illustré la belle parole de l'Évangile, consiste à donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mmh. Et l'idée de patrie sera également abordée par Jean de Vigry. Je crois que vos auditeurs sont
que les auditeurs connaissent très très bien. Mais vous avez beaucoup d'excellents orateurs, parce que je vois qu'il y a également Michel Rouge qui est annoncé.
Voilà, alors ça, nous sommes très heureux de sa contribution, puisque je crois que c'est vraiment l'historien qui, sur le sujet, mérite notre attention et a quelque chose à nous dire.
Vous savez qu'il se donne beaucoup. Hein. C'est un homme qui s'est
donné. On a été très fasciné par son livre et par la solidité et puis la valeur de son livre.
Je lui ai dit par plaisanterie dans une émission de radio, il était venu d'ailleurs parler de son livre avec moi, que c'était pas l'année Clovis, mais que c'était l'année Rouge.
Ah oui. Et oui, à tout seigneur, tout honneur.
Alors, vous avez également Monseigneur Gilles Vac qui vient, oui, vous, qui vient vous voir. Donc, c'est le supérieur de voilà, l'Institut du Christ roi souverain prêtre.
Avec lesquels on a toujours travaillé en amitié.
Et de très bonnes relations.
Nous devrons nous aussi pour défendre la liturgie traditionnelle à laquelle ils se consacrent totalement à travers la formation de leur séminaire, mais aussi les installations des maisons qu'ils ont en France.
Tout à fait. Et puis alors, Monsieur l'abbé Christian-Philippe Chalut, ici présent dans le studio.
On ne présente pas chez vous.
Qui lui va parler de Saint-Martin. Il va faire l'homélie de la messe
du
10.
Nous sommes heureux d'avoir justement un ecclésiastique qui soit un historien comme il l'est, surtout pour parler de cette primitive église qui connaît si bien.
Et puis alors, vous recevez également Marcel Clément.
Marcel Clément, oui, puisque le baptême de Clovis, dans sa perspective, bon, c'est la naissance de la France, mais l'actualité, si j'ose dire, l'actualité de ce message, c'est la vocation de la nation. Et là-dessus, bien sûr, Marcel Clément s'est remarquablement singularisé par les derniers éditoriaux de L'Homme Nouveau, oui, l'année dernière, et puis par son ouvrage aussi qui traite du thème, mm-hmm, et dans lequel, bien sûr, il a rendu, je crois, un vibrant hommage à la nation française sous l'angle de sa vocation.
Tout à fait. Alors, il reste à montrer aux auditeurs, je pense qu'ils en ont été convaincus par la litanie des participants à ce congrès, que c'est très ouvert. Mais que c'est ouvert dans le bon sens, quand même.
Oui, nous tenons à cette formule d'équilibre, puisque c'est un congrès pèlerinage, donc un congrès, c'est-à-dire qu'il parle à la pensée, un pèlerinage, on vient aussi pour y prier. Ces deux dimensions sont essentielles, puisque c'est vraiment, je crois, dans l'essence même du catholicisme qu'on retrouve ce souci de la pensée et cette exigence de prière. On essaie en quelque sorte, si vous voulez, à notre échelle modeste, d'incarner ce primat de la contemplation sur l'action, non pas au détriment de l'action, mais pour féconder justement cette action. Ce congrès pèlerinage, c'est une halte, c'est un temps de reprise, le moment de faire le point, en quelque sorte, pour mieux partir et partir plus fort, armé de la vérité, et bien sûr, pour faire en sorte que des apôtres se lèvent, en France particulièrement.
Alors, il nous reste à rappeler aux auditeurs que ce congrès pèlerinage aura lieu les dimanches 10 et lundi 11 novembre prochains, des journées très très intenses, mais aussi avec des temps de, je pense, des temps de déjeuner pour échanger un petit peu avec les personnes qui sont là, puis aussi des temps de prière, soit prière silencieuse, soit participation aux Saintes Messes qui seront célébrées ces deux journées. Pour s'inscrire, comment faut-il faire?
Alors, très simplement, nous avons une adresse qui est facile à retenir. Les auditeurs désireux de nous écrire donc peuvent adresser leur courrier au centre Montoriol, la boîte postale 330 82 003 Montauban-Sédex.
Alors, je vais redonner la boîte postale, c'est la boîte postale 330 82 003 Montauban-Sédex.
Voilà. Et alors, ceux qui préféreraient retenir un numéro de téléphone plus court malgré les 5 chiffres, c'est le 0563 31 10 58.
Alors, on va redonner encore une fois le numéro de téléphone, c'est 05 63 31 10 58. C'est bien sûr valable pour tous, voilà, les auditeurs de Courtoisie, qu'ils soient à Paris ou qu'ils soient en province, au Mans, en Bretagne, en Normandie, pas encore en Bretagne, et dans la région de Chartres. Voilà, voilà. Donc c'est le 05 63 31 10 58.
Tout simplement, ils auront donc un dépliant avec toutes les explications.
Eh bien, Arnaud Jaillard, je vous remercie beaucoup de toutes les explications que vous avez données. Je pense que cela aura intéressé certains de nos auditeurs, et je souhaite de tout cœur que ce congrès pèlerinage de votre sympathique centre se passe magnifiquement bien. Mais avec vous, je n'ai pas trop de soucis, parce que je sais que vous êtes un puissant animateur.
Oh, écoutez, merci infiniment en tout cas, et à très bientôt.
Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Au revoir, Arnaud Jaillard. Voilà, donc nous enlevons nos petits casques que nous mettons, voilà, très bien, il faut les mettre un petit peu à cheval comme ça pour éviter le larcin qui est, voilà. Alors, je me tourne un peu vers l'abbé Chalut parce qu'il va participer à ce congrès pèlerinage. Donc, vous allez prêcher sur Saint-Martin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Saint-Martin?
Je pense que tout le monde sait ce qu'on peut dire sur Saint-Martin. c'est pas un sujet ni neuf, ni ignoré des temps où nous sommes. En fait, ce que je vais vouloir montrer, c'est que avant cet événement fédérateur du baptême de Clovis, il y a eu une évangélisation des Gaules dont Saint-Martin est un symbole. En fait, c'est un peu comme tout ce qui s'était passé avant aboutissait jusqu'à lui, et que de lui part tout ce qui se fera après. Donc, en fait, à travers Saint-Martin, j'aurais bien envie de rappeler les martyrs de Lyon, Saint-Irénée de Lyon, Saint-Hilaire de Poitiers, le maître de Saint-Martin, et les quelques 116 saints que l'on a recensés avant que Saint-Martin ne parlât, plus sans doute aussi tout un légendaire qu'il ne faut pas jeter aux chiens. Il faut savoir que c'est un légendaire, mais il faut savoir que ce légendaire contient en lui-même un certain nombre d'éléments vrais, c'est-à-dire un certain nombre d'éléments d'illustration de la foi. En gros, c'est ce que je ferai, oui.
Alors, je rappelle que vous êtes en train d'écouter l'abbé Christian-Philippe Chanut qui s'exprime sur les ondes de Radio Courtoisie. Vous pouvez nous appeler, si vous le souhaitez, envoyer vos messages ou vos questions en téléphonant au 01 46 51 0085, 01 46 51 0085. On s'y fait vite au réflexe du 01, ça vient, oui, ça vient très, oui, vite, voilà. Alors, ce que vous dites, j'essaie de rebondir sur ce que vous avez dit, parce qu'on a entendu, et je l'ai déjà dit à la radio, venant de Claire, une espèce d'opposition dialectique qui se faisait entre Saint-Martin et Clovis. Certains clercs ont exprimé des...
Vous voyez, à qui on fait allusion. On défend son bout de gras et son fonds de commerce, mais...
C'est quand même très dialectique comme présentation de la chose.
Enfin, il faut être clair, Saint-Martin, j'imagine, en bon hongrois qu'il est, n'a aucune notion de ce que peut être une hypothétique unité nationale entre les frontières que nous connaissons. C'est un citoyen romain, comme son maître Saint-Hilaire, comme tous les gens de son époque, si on peut en juger par Ozone, par exemple. Ils se sentent membres de l'Empire romain. L'idée qu'il pourra naître quelque chose d'aussi particulier que ce qui deviendra le précaré d'Henri II, mais ça leur vient même pas à l'idée. Ça vient même pas à l'idée de Clovis non plus, d'ailleurs, il faut le savoir. Mais n'empêche que si Clovis n'avait pas été baptisé, cet ensemble n'aurait pas pu exister. Et là, l'ensemble aurait existé autrement. Moi, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'il y aurait eu une sorte de fédération gothique. D'ailleurs, qui est déjà bien en marche. Vous parliez de Monsieur Rouge tout à l'heure. Qui l'a mieux exprimé que lui et qui nous l'a mieux montré que lui? Il y aurait eu autre chose, mais pas forcément ce que nous connaissons. Et en tout cas, territorialement, ce n'aurait pas été la même chose. Mais spirituellement, intellectuellement, dans le réflexe historique, si je puis dire, ça n'aurait pas non plus été la même chose. Il y aurait eu d'autres bases, d'autres principes, et donc, par voie de conséquence, une autre postérité.
Mais la Providence a voulu que les choses se développent de cette manière.
C'est ce que nous croyons.
Ben, c'est ce dont nous sommes sûrs.
C'est ce que nous croyons. Nous le croyons parce que les souverains pontifes nous l'ont enseigné.
Une raison magistrale. Donc là, on s'incline.
Dernièrement.
Alors, bon, merci de toutes ces explications sur ce matin. Alors, je vais vous faire sauter par-dessus les siècles, parce que bon, il faut quand même vous représenter un peu aux auditeurs. Vous êtes un simple curé de paroisse, comme vous le dites souvent.
De banlieue.
Mais vous êtes aussi quand même un historien de grande qualité et un grand spécialiste du 17e siècle quand même, en fin de compte.
Je suis plus un 18e-iste qu'un 17e-iste.
Vous êtes un 18e-iste.
Je suis très 17e-iste sur ce qui est la religion, en fait, et je suis très 18e-iste sur ce qui est la politique.
Alors, ça tombe très bien que vous ayez préfacé un ouvrage d'un ancien confrère à vous, l'abbé Millot, dont on va dire quelques mots, parce que c'est un personnage quand même qui est assez peu connu.
C'est un personnage assez peu connu, totalement inconnu, oui, bien qu'il fût mortel connu par l'Académie française. Voilà,
fut académicien. Alors, on trace pour quelques repères pour nos auditeurs. L'abbé Millot, donc, est mort en 1789. Il est mort un peu
avant. Il est mort un peu en 85.
85, donc avant la Révolution française. Et il a eu comme particularité d'être le précepteur du duc d'Enghien. Donc, c'est un Bourbon-Condé, si mes souvenirs sont bons, c'est ce jeune duc d'Enghien qui sera enlevé à l'étranger et fusillé dans les fossés de Vincennes. Et il avait donc écrit, pour l'instruction de son élève, une vie du duc de Bourgogne. Vie du duc de Bourgogne qui était donc l'aîné des petits-fils de Louis XIV. Je rappelle pour les auditeurs qui auraient oublié que Louis XIV a eu 3 petits-fils, n'est-ce pas, dans l'ordre de primogéniture Bourgogne, Anjou, Berry, que Bourgogne était destinée, après la mort du grand dauphin, à ceindre la couronne de France, mais la Providence en a disposé différemment, tandis que le deuxième petit-fils, Anjou, partait régner sur les Espagnes, en vertu du testament du feu roi d'Espagne, Charles II, Habsbourg, peut-on dire, n'est-ce pas? C'est bien, monsieur, je suis pas trompé. J'ai bien appris ma leçon.
Vous l'avez bien descendu.
Alors, donc cet abbé Millau écrit une vie du duc de Bourgogne, en prenant son exemple sur le règne précédent, puisque c'est un ouvrage qu'il écrit dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et là, bien sûr, ce dont nous parlons se rapproche quand même plus de la fin du XVIIe siècle ou des toutes premières années du XVIIIe siècle. Il l'écrit pour son élève, le duc d'Enghien. Alors, en quoi était-il intéressant de republier un livre pareil, et pourquoi avez-vous accepté, à part le fait d'avoir des gentillesses pour l'éditeur, mais pourquoi avez-vous accepté d'en faire la préface, en quelque sorte?
J'ai accepté parce que ça m'amusait. Ça m'amusait d'extraire l'abbé Millau de la nuit des temps où il est parti. Je tiens d'ailleurs à dire, puisque nous allons en parler avec l'ouvrage de notre ami, que Arnaud de Maurepas m'a donné les premières pistes. Gentiment donné les premières pistes en me disant, tiens, vous devriez chercher par-ci, par-là. Et effectivement, à partir de ce qu'il m'a donné, j'ai pu inventer, au sens religieux du terme, l'abbé Millau. Alors, d'abord, ça m'amusait. Et ensuite, cet ouvrage me paraît intéressant à deux chefs. Le premier chef, c'est que c'est une vie de duc de Bourgogne, et il n'y a pas tant de vie de duc de Bourgogne que ça. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est présentée de telle manière qu'elle est très significative d'un courant de pensée de la fin du XVIIIe siècle. Oserais-je dire qu'on apprend entre les lignes beaucoup plus sur l'auteur que sur le sujet? Vous savez, un de mes professeurs de séminaire disait cela, quand vous lisez une vie de Jésus, vous en apprenez plus sur celui qui a écrit le livre que sur Jésus lui-même. Ben, je crains que pour l'abbé Millau, ça soit un peu la même chose, à travers les gens qu'il décrit et surtout les idées qu'il défend, qui est en fait une sorte d'affadissement du message fénelonien, on voit où l'on va. Et c'est une des raisons pour lesquelles cet ouvrage est intéressant, parce qu'une fois qu'on l'a lu, on ne peut pas être étonné de ce qui s'est passé après.
Donc c'est un peu imprégné, l'abbé Millau, on va peut-être dire quelques mots sur sa carrière. On sait qu'il l'a fini à l'Académie française. J'ai beaucoup de respect pour l'Académie française, mais enfin, il se trouve aussi qu'à ces époques reculées, il y avait des gens qui étaient un peu, peut-être secondaires, bon, qui n'avaient qu'une notoriété du moment, mais qui ne sont pas passés à la postérité véritablement, même s'il y a eu de grands noms qui ont subsisté. Mais d'où vient-il exactement cet abbé Millau? Et comment se hisse-t-il? Parce que quand même, devenir précepteur du duc d'Enghien et de l'Académie française, c'est pas rien pour un simple prêtre.
Oui, c'est pas un homme sans ressources ni sans intérêt. Donc il naît d'un magistrat byzantin. Il entre chez les jésuites, semble-t-il par vocation, ce qu'il ne niera plus tard. Il dira, le goût du jésuitisme s'empara de moi dès la rhétorique. C'était tout à la fois enfantillage, vanité, dévotion et sagesse. Le métier d'enseigner me paraissait admirable, l'habit de jésuite me plaisait fort, la considération de cet état dans ma province me frappait aussi. Nul ne sonde les cœurs et les reins pour savoir pourquoi réellement il est rentré dans la compagnie de Jésus, sauf ce qu'il dit. Il dit aussi parce qu'il a commis des mémoires qu'un censeur bien pensant a coupé, raturé sous la Restauration, mais enfin dont il reste quand même des choses un peu grosses. Voilà un homme qui n'a pas la foi, mais si on veut faire carrière dans le monde, ou tout au moins si on veut faire carrière dans les lettres, ce qui est son objet et son objectif, être jésuite, c'est quand même un bon courant porteur.
Vous dites il n'a pas la foi, on en est sûr de ça ou...
On est sûr de ça, on est sûr de rien, mais enfin quand il écrit le cours de théologie me sembla un cours de déraison, presque d'incrédulité, car les inepties du péripatétisme ne peuvent qu'avélir le dogme, on peut supposer que, et en plus il ne s'est jamais comporté comme un défenseur de la foi en lui-même, c'est-à-dire que par exemple il écrit ses mémoires, il oublie complètement de nous dire qu'il a été ordonné prêtre par exemple. On ne sait rien de cette date d'ordination, si bien qu'un certain nombre de ses biographes, car il en a quand même eu un ou deux, se demandent si vraiment il a été prêtre dans sa vie déjà. Voilà. Donc Il est jésuite, il est professeur de collège, ce qui ne l'enthousiasme pas, et il publie un mémoire. Vous savez, il répond à un de ces fameux concours d'académie, et le voilà couronné, alors il passe un peu dans le monde, et il profite de cette courte notoriété pour écrire à tout ce qui pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre à entrer dans le monde des lettres. Mais tous azimuts, en définitive. Il n'a pas d'ailleurs un grand succès. En revanche, il traduit le discours sur la philosophie anglaise de Pope, il traduit l'essai sur l'homme de Pope, précédé d'un discours sur la philosophie anglaise. Nous sommes à l'époque où cette littérature plaît, et là, il va avoir un début de notoriété. Dès qu'il a un début de notoriété, il quitte la Compagnie de Jésus. Et il quitte la Compagnie de Jésus pour entrer dans une autre Compagnie de Jésus, dont on parle peu mais qui existe bien, c'est les anciens jésuites. Et les anciens jésuites cèdent les uns les autres pour se pousser les uns les autres. Alors il va chercher pendant toute sa vie à trouver quelque chose, il va aller d'un parti à l'autre, des anciens jésuites au jansénisme, puisqu'il est vicaire général de Monsieur de Montazé, archevêque de Lyon, dont les sympathies jansénistes ne sont plus approuvées. Après il va aller chez les philosophes, mais pas trop. Il va se faire des amis un peu partout. Ceci étant, il s'essayera à l'art de la chair. Un de ses anciens confrères le fera inviter à prêcher à Versailles, où il ne plaît pas du tout parce qu'il fait un sermon sans spiritualité, qu'avec simplement des assemblages de notions morales, comme on le faisait hélas trop souvent au XVIIIe siècle. Donc ça ne plaira pas, jamais il ne pourra remettre les pieds dans une chaire à Versailles. En revanche, ça plaît assez au roi Stanislas, qu'il invite à prêcher à Lunéville. Mais prêcher, c'est pas son affaire. Son affaire, c'est de faire des mémentos d'histoire, dirait-on aujourd'hui, ce qu'il fait avec un certain succès, car il a des succès d'édition remarquables. Il est traduit dans les langues étrangères les plus diverses dès son vivant, avec ses petits éléments de l'histoire de France, éléments de l'histoire d'Angleterre, quelques corrections de livres, quelques traductions, etc. Le fait d'avoir été vicaire général de Montazé sans avoir jamais exercé la moindrement le ministère le place quand même d'une manière un peu particulière, mais on s'en méfie beaucoup parce que voilà un homme dont on ne sait pas très bien ce qu'il pense et dont on suppose qu'il penserait plutôt mal. C'est pourquoi ce pauvre garçon, malgré tous les efforts qu'il fera, n'obtiendra jamais le moindre bénéfice. Jamais le moindre bénéfice. D'abord, Monsieur de Charente, qui est à l'époque évêque d'Orléans et qui a la feuille, a comme mission de...
La feuille, vous pouvez préciser ce que c'est pour les
la
auditeurs.
Feuille des bénéfices, c'est la feuille des nominations aux bénéfices ecclésiastiques. Or, Monsieur de Charente a comme principe, et sûrement comme ordre, de ne pas nommer des gens qui pourraient rallumer des querelles ecclésiastiques. Donc il n'est pas question de nommer ce pauvre Millot, qui à l'époque est censé appartenir au parti janséniste, encore qu'il soit un ancien jésuite et qu'il flirte pas mal avec le monde philosophique. Le cardinal de La Rochemont, qui succédera à Sextus de Jarente, fera parfaitement la sourde oreille, et on ne sait pourquoi, Louis XVI... qui pourtant ne passe pas pour un homme avec des décisions si tranchées, refusera catégoriquement de jamais donner quoi que ce fût à ce personnage-là. Mais pourquoi ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, et on en est réduit aux conjectures, on peut toujours faire un roman là-dessus. Ceci étant, son grand morceau de gloire tiendra à ce qu'il enseignera à Parme. Donc vous savez qu'un Français, du Tillet, était principal ministre, donc il enseignera à Parme, il aura une chaire à l'université, quand le gouvernement du Tillet tombera, bah, il tombera avec, il réussira à grappiller quelques sous quand même, quelques pensions pour vivre. Au retour, c'est lui qui fera la rédaction des mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de Louis XIV et de Louis XV, que nous connaissons comme étant les manuscrits du duc de Noailles. Donc à la demande des héritières du duc de Noailles. Et puis, il se poussera dans l'Académie française, ou tout au moins d'Alembert le poussera dans l'Académie française comme un prêtre qui n'a de prêtre que l'habit, dit d'Alembert. Alors à partir de ce moment-là, surtout que Voltaire lui a tressé une couronne à propos des mémoires du duc de Noailles, livre très utile, dit Voltaire. Donc tous les ennemis des philosophes vont se déchaîner contre l'abbé Millot, et il va devenir, un peu malgré lui, une sorte de porte-drapeau du parti philosophique, alors qu'en fait, ça n'est pas un être brillant, ça n'est pas un être bavard, ça n'est pas un homme de salon, bon, mais les ennemis s'affichant contre lui, ben ses amis ou ses prétendus amis vont le soutenir, et singulièrement d'Alembert, qui va toujours pousser sa candidature à l'Académie française. Alors on disait qu'il y avait des tas de gens qu'on ne connaissait pas du tout, et ben par exemple la première fois l'abbé Millot est battu par le poète Colardeau.
C'est pas mieux.
Je serais curieux de savoir si un auditeur a déjà entendu quelque chose du poète Colardeau. Enfin, sauf les gens qu'on lui m'a préface, là. Ils n'ont pas le droit de jouer, évidemment.
Alors, je rappelle qu'on peut si les auditeurs ont des informations sur le poète Colardeau de l'Académie française, ils peuvent qu'il ait, non, qu'il n'est pas rentré à l'Académie française, Colardeau.
Ben si, il est élu et il est mort.
Bon, il est mort.
Il n'a pas eu.
Voilà, donc
la
ils peuvent sur Radio Courtoisie et ils peuvent nous appeler au 01 46 51 00 85.
Ceci étant, la deuxième fois, il est battu par la harpe, ce qui est quand même un peu.
C'est mieux, un peu plus connu.
Ce qui est quand même autre chose. Et puis, à la fin du compte, grâce à d'Alembert, il est élu au cinquième fauteuil, il succède à Grisset, qui n'est pas un inconnu, mais et il a contre lui quand même les quatre personnages qui sont contre lui. Il y en a au moins deux qui sont connus, c'est-à-dire qu'il y a Lemierre dont on ne sait pas grand-chose, Chabanon dont je pense qu'on ne sait rien non plus, mais il y a quand même l'abbé Maury, futur cardinal et archevêque de Paris, et puis il y a Chamfort. Alors que Chamfort soit battu par Millot, ça vous laisse à penser. Alors, comment sont élus plus tard?
Alors, donc le l'Académie française. Mais comment devient-il précepteur du duc d'Angles? Ça, c'est quand même une chose un peu mystérieuse.
Oh, alors là, c'est très très simple. Il y a à l'époque, comme ministre de la guerre, le vieux comte de Saint-Germain, qui est une ganache, mais je vous ferai peut-être injure en disant ça.
Mais il était comme le réformateur des écoles militaires, non? C'est pas lui qui a un peu institué les écoles militaires.
Il était.
C'est ça.
Il était. Et lui, il trouve qu'il faut faire un manuel d'histoire ancienne et d'histoire romaine de l'histoire de France. Voilà, pour les braves gars qui sont dans son école militaire. L'abbé Millot, c'est sa spécialité, les manuels. Il est à l'Académie française. Il est bien vu des philosophes. Sa spécialité est quand même reconnue. Et le comte de Saint-Germain lui dit, mais bon petit gars, monsieur l'abbé...
Vous êtes tout indiqué.
Monsieur l'abbé, vous êtes tout indiqué, faites-moi ça. Et l'abbé Millot fait ça. C'est l'époque aussi où Voltaire est reçu en visite à l'Académie française. Et parmi les deux ecclésiastiques qu'il y a dans l'Ola, se trouve naturellement l'abbé Millot. C'est le moment où on se dit qu'il faut donner au prince un autre type d'éducation. Et dans le parti, évidemment, le duc de Nivernais. Il faut le dire, et quand même plus de ce côté que de l'autre. Et c'est le duc de Nivernais qui va lui proposer de prendre le poste de précepteur du duc d'Enghien. L'abbé Lusine qui est là aussi est de la même espèce. Et voilà comment on acceptera pour le duc d'Enghien que l'abbé Millot soit son précepteur. Ceci étant, il ne va pas le rester très longtemps, parce qu'il rentre en fonction en mai 78 et il meurt en mars 85.
Alors, nous étions restés à ce cher abbé Millot, désormais investi de la rédaction d'un manuel pour les écoles militaires formé par M. de Saint-Germain, qui n'a rien à voir avec Philippe de Saint-Germain ici présent.
Rien du tout.
Voilà. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle image l'abbé Millot, au plan historique, au plan des idées politiques, au plan de la philosophie politique, l'image qu'il veut donner du duc de Bourgogne à son élève, le duc d'Enghien.
Alors, si on veut être court...
Il le faut.
Et il le faut, on dirait mais l'à peu près serait coupable, il veut lui donner l'image du télémaque. C'est-à-dire que voilà, on applique Fénelon. Ce qu'on a fait pendant tout le siècle, seul, je pense, le roi Louis XV a échappé à cette chose-là.
Et Louis XVI pas, puisqu'on a dit qu'il avait sa petite imprimerie et qu'il avait composé des chapitres entiers de Télémaque avec ses petits caractères d'imprimerie.
Et surtout, si vous lisez le Télémaque et que vous voyez le règne de Louis XVI, le règne de Louis XVI est profondément logique. Évidemment, si vous n'avez pas eu le Télémaque, ça paraît point logique.
Le Télémaque se termine mieux que le règne de Louis XVI, quand même.
Ah oui, ça c'est clair. Bon, mais Or, en fait, notre Millot, comme les gens de sa génération, a recomposé le personnage du Télémaque et a recomposé le personnage de Fénelon, de sorte que Fénelon devient le leader, si je puis dire, de l'opposition monarchiste, et que il devient par-dessus le marché le créateur de l'esprit de la Constitution, qu'il devient l'homme frappé par la tyrannie, qu'il devient le père du libéralisme, et qu'il devient, selon Voltaire, l'adversaire de la théologie. Alors que Fénelon veut former un prince chrétien soumis à la loi de Dieu, on prétend qu'il vise à créer une société laïque limitant le pouvoir du prince, non par les lois divines, mais par la constitution, par les constitutions humaines. C'est pas pour rien d'ailleurs que quand on va construire, que quand David d'Angers va faire le fronton du Panthéon, le personnage central c'est Fénelon. Et ce que l'on veut faire du duc d'Enghien, c'est un bon prince qui va devenir constitutionnaliste. Alors, l'abbé Millot n'est pas un âne, et c'est pas non plus un romancier, même si c'est un idéologue. Donc il n'est pas question qu'il dise que le duc de Bourgogne est constitutionnaliste. Ça serait d'un anachronisme historique trop gros. Mais il va le laisser supposer et entendre. C'est-à-dire que si l'on prolonge dans le temps, naturellement, on arrivera à ça. Et vous savez combien les Français sont sensibles à ça. L'histoire que nous avons, nous, appris, enfin pas vous, vous êtes trop jeunes, mes pauvres enfants, mais nous autres, les derniers vieux,
les vieux
que nous avons appris à l'école primaire, c'était ça. C'est-à-dire que depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à la société de demain, c'était le même fil qui se déroulait et la même perspective. Ce qui fait que étaient engagés derrière Jules Ferry, Jeanne d'Arc, Louis XIV, le cardinal de Richelieu, l'homme de Cro-Magnon, Vercingétorix, enfin n'importe qui passait par là, était toujours ça. Et l'abbé Millot, c'est un peu cette perspective, sinon sa perspective est un peu courte, parce qu'il est persuadé que les temps nouveaux sont déjà là.
Merci cher Abbé Chanu pour ces explications. Moi je trouve toujours que ce livre est attachant parce que c'est un livre kaléidoscopique. Il raconte pour l'instruction d'un Bourbon l'histoire d'un Bourbon, mais c'est une histoire revue par un auteur qui réinterprète Fénelon, parce que Fénelon n'est pas tout à fait ça. Alors c'est très intéressant, je trouve. Ouais. Vous avez fait une très belle préface que j'invite bien sûr les auditeurs à découvrir.
Rien pour la préface, faut acheter le livre.
Au moins pour la préface. Alors, il y a un auditeur qui nous signale que Colardeau a mis en vers le temple de Gnide de Montesquieu. Eh bien, je dois dire que j'ignorais totalement que Montesquieu avait écrit quelque chose.
Ah, ben, je vois mon pauvre Daniel que vous n'avez pas lu ma préface, parce que c'est en note.
Ah, ben, voilà,
c'est en note.
Donc, alors, l'auteur a dit dans votre préface.
Je ne disais pas ça pour montrer ma nullité, mais au contraire, pour souligner mes notes. Et puis il a mis Deux nuits de Jung aussi en vers, et puis Les hommes de Prométhée, les épîtres à Minette et l'épître à Duhamel. Et il donna aussi deux médiocres tragédies, Astarbé et Calice. Il est né en 1732, il est mort en 1776. J'ai gagné mon concours. Bravo.
Alors donc, je rappelle l'ouvrage dont nous parlions de l'abbé Millot, cette vie du duc de Bourgogne, préfacée bien sûr par l'abbé Chanu. La préface n'est pas pour peu dans l'intérêt de ce livre, publié dans une collection qui s'appelle Archives des Bourbons, chez Communication et Tradition. Ça vaut 80 francs, on le trouve dans les librairies, généralement dans les bonnes, donc Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, Duc, 45 rue Midi-Moncel, enfin toutes les bonnes librairies parisiennes. Sinon, on peut nous téléphoner et nous donnerons tous les renseignements utiles. Nous tournons la page de l'abbé Millot,
et du comte de Saint-Germain pour nous tourner vers Philippe de Saint-Germain, que je suis heureux de recevoir une seconde fois pour cette séance de rattrapage que je lui devais pour lui avoir, non pas coupé la parole, mais c'est la technique qui a décidé qu'il fallait en finir. Alors, je rappelle simplement que Philippe de Saint-Germain est le délégué général de l'association pour la fondation de services politiques. Donc, c'est une association qui vise un jour peut-être à devenir une fondation, mais qui
voilà, peut remplir
un certain nombre de, n'est-ce pas, de
conditions, conditions qui sont pour pouvoir le très faire. Très sévères. Mm-hmm.
Alors, vous organisez à Reims, qui cette année est devenue une manière de capitale de la France, parce que Dieu sait si de nombreuses choses s'y sont déroulées, de nombreuses, dont le sommet était sans doute la visite du Saint-Père en cette ville. Vous organisez sous l'égide de l'association officielle baptême de Clovis un colloque, les 2 et 3 novembre prochains, un colloque que vous avez intitulé « Le droit des nations ». Deux points, réponses à Jean-Paul II. Alors, voudriez-vous nous redire un petit peu l'esprit dans lequel vous avez souhaité faire ce colloque en cette année particulière et peut-être aussi en ce moment particulier de l'histoire de votre propre association ?
Oui, alors, pour commencer, un mot sur notre association qui, comme vous l'avez dit, a pour objet de devenir un jour une fondation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fondation ? Ben, c'est un instrument, un organisme qui a pour objet de supporter ou de promouvoir une famille de pensée. Alors, cette famille de pensée, c'est une famille de pensée politique française qui se veut cohérente avec la doctrine sociale de l'Église. Alors, l'affaire n'est pas mince. D'autres y sont essayés avant nous. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est faire nôtre la totalité de l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église et la rendre possible sans la trahir, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons. Alors, pourquoi ce congrès ? Pourquoi ce colloque ? Eh bien, pour engager une réflexion sur le rôle politique et la responsabilité politique des catholiques en France sous l'angle de la nation. Alors, pourquoi évoquer ce thème de la nation ? Tout d'abord parce que le Saint-Père lui-même a engagé le débat il y a un an, enfin même beaucoup plus, évidemment, il y a beaucoup plus longtemps, puisque ça c'est un thème qui est récurrent dans sa pensée depuis que Karol Wojtyla réfléchit aux grandes questions de ce monde. Il a parlé du thème de la nation en France, à l'UNESCO en 1980. Il l'a engagé de façon beaucoup plus approfondie aux Nations Unies il y a tout juste un an, invitant les chefs de gouvernement et les chefs d'État du monde entier à s'interroger sur ce concept du droit des nations, faisant remarquer qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée en 1948 par l'Organisation des Nations Unies, mais qu'il n'y a pas de déclaration analogue du droit des nations. Et ce droit des nations étant aujourd'hui, dit le pape, très sérieusement remis en cause, il est à l'origine d'un certain nombre de graves atteintes à la liberté et à la justice dans le monde. C'est comme cela que le pape en parle. Donc nous avons voulu rebondir sur cette interrogation du pape pour bien mettre en évidence l'importance de cette réalité nationale dans la responsabilité politique des catholiques. Alors, ce thème peut paraître un peu éloigné de nos préoccupations quotidiennes. Le droit des nations, est-ce que c'est pas une affaire de spécialiste, une affaire de juriste, de droit international ? Je crois qu'en fait, elle est au contraire très très proche de la réalité quotidienne. On peut prendre des exemples. On a tous, les uns et les autres, des frères, des cousins, des amis qui ont été engagés, par exemple, dans l'armée française, durant la guerre du Golfe ou en Yougoslavie. Est-ce qu'on s'est interrogé sur la légitimité de ces conflits et du rôle que la France devait y jouer ? Alors, on peut d'ailleurs ouvrir une parenthèse, on a beaucoup reproché à la nation d'être en quelque sorte un facteur de guerre dans l'ex-Yougoslavie, mais c'est aussi la logique de l'empire yougoslave qui faisait peser sa chape de plomb sur les réalités nationales, communautés de culture.
On disait hier sur cette antenne, je ne sais pas si vous écoutiez le libre journal du mardi soir, parce que nous sommes aujourd'hui mercredi, même pour les gens qui nous écouteront demain en rediffusion jeudi matin, on disait en fait que la charge financière de l'affaire bosnienne paradisiaque pour la France équivaut à un très beau bateau de guerre tout moderne, et qu'on se demandait si, stratégiquement parlant, pour ce qui est des missions de la France ailleurs, il eût pas mieux valu avoir un bateau plutôt que d'aller dans cette zone de l'Europe où je suis pas très sûr que nos prestations aient été vraiment très utiles.
C'est vrai qu'historiquement, la France est peu compétente dans cette région du monde, mais la vocation de la France, qui s'est retrouvée aussi dans cette affaire-là, devait ne peut-être ne pas être prise en défaut, puisqu'il y a une vertu à l'universel toujours dans la vocation de la France. Et en tout cas, moi, j'observe que on a accusé, comme je le disais tout à l'heure, les nations d'être à l'origine de cette guerre, mais c'est aussi une nation qui a réussi à débloquer le conflit, et en l'occurrence c'est la France, peut-être pas pour résoudre le conflit, je crois qu'il était trop tard, et sans doute peut-être encore maintenant et pour longtemps, mais c'est l'action déterminée d'un pays souverain qui a fait voler en éclats la chape de plomb, encore une fois, des organismes internationaux qui finalement repoussaient le problème pour jamais le résoudre. Donc c'est une nation qui a débloqué la situation. Alors il y a d'autres exemples, plus prosaïquement, le prix de la baguette de pain demain sera sans doute libellé en écus. On ne peut pas.
Ah non, c'est fini l'écu. C'est fini l'écu.
Ah pardon, oui, vous avez raison. C'est... En euros,
ce serait l'euro.
C'est beaucoup moins beau.
Ce serait l'euro.
On ne peut pas ne pas penser que une nouvelle politique économique est en train de voir le jour et que ça aura des conséquences sociales et fiscales. Personne ne le dit, mais c'est certainement très très vrai. Alors est-ce que ça va dans la bonne direction? Encore une question qui est posée. Et puis alors il y a l'exemple de ce jour, ou d'hier plus exactement, où on a vu le président de la République française molesté avec son entourage par les services de sécurité israéliens, alors même que le président de la République française, protecteur des lieux saints, se rendant dans un territoire théoriquement sous souveraineté française. Je crois que ce titre, je parle sous le contrôle de monsieur l'abbé Chanu, ce titre de protecteur des lieux saints est partagé par l'Espagne, l'Italie et la Belgique.
Oui, depuis que l'Autriche et la Prusse ne sont plus.
Voilà. Donc il y a une église à Jérusalem qui a été donnée par le sultan ottoman en 1878, si ma mémoire est bonne, à la France. Donc la France est chez elle là-bas. La France, comme le Vatican, n'a jamais reconnu
la partition
de Jérusalem. Et le président de la République est tout à fait dans son rôle ici, en protecteur d'une réalité nationale qui est celle de la communauté palestinienne, d'une part, et puis d'autre part,
il a su le faire avec
garant,
un certain punch, je dois dire.
Oui, il a eu un bon réflexe, je crois qu'il faut le dire. Et puis il a fait référence aussi au rôle historique de Jérusalem, qui doit être ouvert à tous les chrétiens de Palestine et du monde entier. Là, il a joué son rôle. Bravo. Bon, encore une fois, là, le droit des nations est en plein cœur de l'actualité. Et c'est toutes ces questions-là que nous avons voulu chercher à développer, à approfondir, pour bien mettre en évidence l'apport original de la pensée politique de l'Église sur ce point, et en particulier de celle de Jean-Paul II, qui parle toujours, enfin souvent quand il évoque cette question, en fils de la nation polonaise.
Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi le fait que les nations sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas pour ce qui est de la nôtre, nation dont l'existence est menacée par le haut et par le bas. Elle est menacée par le haut en raison de l'ensemble des dispositifs qui sont hérités de la pensée maastrichtienne ou maastrichtienne, je ne sais pas comment il faut dire, mais enfin, de façon de le dire, c'est aussi moche. Et en même temps, par le bas aussi, par le fait que le sentiment d'appartenance nationale ayant tendance, par l'ensemble des médias de communication internationaux, à s'étioler, les problèmes d'une immigration peu contrôlée, les risques de certains irrédentismes régionaux, on les voit un peu partout, dans l'Europe qui nous est tout à fait proche, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à d'autres pays. Est-ce que tout cela ne veut pas dire que la nation est menacée? Est-ce que cela veut dire qu'elle doit disparaître? Parce qu'on entend ce discours, les nations, ça a fait son temps, il faut que ça disparaisse maintenant, etc.
Jean-Paul II, dans son discours à l'ONU, cite Benoît XV disant que les nations ne meurent pas. Alors, c'est peut-être une figure de style, parce que, y compris dans la plus stricte orthodoxie, je crois que les nations au paradis n'existeront plus.
Est-ce qu'on ne s'est pas jugé comme homme et enfin en tant que comme homme et aussi en tant qu'appartenant à une nation?
Alors ça, je le pense en revanche.
On peut se tourner un second vers le monsieur l'abbé Chanu. Ne serons-nous pas jugés deux fois, une fois comme homme et une fois comme appartenant à une nation?
Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que dans les textes de la Sainte Écriture, lorsqu'on présente le jugement dernier, les nations sont là. Que lorsque Jésus parle du baptême, il parle du baptême des nations. Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et les nations au pluriel, comme a rappelé le pape Reims.
Ceci étant, qu'est-ce qu'une nation? Voilà, c'est une question qui n'a pas de fond. Et je crois que ce qui tue les nations, c'est d'abord un centralisme tel que elles ne sont plus des conjugaisons et que ce qui fait leur richesse propre disparaît. Et si la France doit mourir, ce qui ne peut pas arriver, mais si la France doit pâtir, elle pâtira de ce centralisme absolu qui fait qu'il n'y a pas si longtemps, les petits-enfants qui parlaient corse à l'école ou qui parlaient basque ou qui parlaient la langue d'oc étaient sévèrement punis grâce à notre cher ami l'abbé Grégoire, maintenant au Panthéon sans croix. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que on peut parler, oui, de l'irrédentisme régional, etc., qu'on voit un peu partout, mais on le voit un peu partout dans une situation de centralisme absolu. Et c'est curieux qu'on ne le voit pas en Allemagne, par exemple.
Mais c'est au nom de la nation qu'on a interdit les particularismes nationaux. C'est la Révolution qui, au nom de l'idée de nation, de l'idée qu'elle se faisait
de la nation, oui,
a absolument supprimé tous les soi-disant les parlers régionaux.
Alors c'est vrai que toute la difficulté consiste à identifier les nations. Quelle est la différence ou comment est née, par exemple, la nation française par distinction avec la nation allemande ou la culture allemande? Alors ça, c'est un thème qui sera évoqué par Michel Rouche à nouveau à Reims durant notre colloque.
Vous pouvez nous donner un petit peu comme Zakus, qui, si je puis dire, donner l'ensemble des grandes lignes des participants et des thèmes qu'ils vont aborder, parce que donc Rouche effectivement va parler de comment se construit une nation, en fin de compte. D'abord, vous avez Mgr Defoy qui va venir faire...
Oui, Mgr Defoy, après Bernard Cellier, le sénateur Bernard Cellier, qui est administrateur de notre association, qui ouvrira les travaux, Mgr Defoy évoquera la pensée du pape sur le droit des nations à travers ses grands discours, et notamment le dernier à Reims. Et puis ensuite, alors nous évoquerons les fondements historiques de la nation pour évoquer à travers un exemple qui nous est proche puisqu'il s'agit de la France pour montrer comment une nation peut naître, puisque le pape définit la nation comme une communauté de culture, et qu'une culture, là aussi, c'est très difficile à identifier, ça ne naît pas dans un claquement de doigts, et c'est pas Clovis en mettant les pieds dans le baptistère de Reims que d'un seul coup la nation française est née. Elle était déjà en chemin. Non, il y a certainement eu un saut qualitatif brusque que l'on peut voir avec le recul du temps, mais qui est très difficile à mettre en évidence. C'est pourquoi nous avons fait appel à trois historiens, Michel Rouche, Patrick Demouy, qui est le président de l'association Mémoire du baptême de Clovis, historien et professeur à l'université de Reims, et Yves-Marie Berset, qui est le directeur de l'école des Chartes, 17e-iste également, pour évoquer la lente maturation de la culture et de la nation française, ses responsabilités, ses devoirs aujourd'hui, l'évolution du concept de nation, de conscience nationale, la raison d'État et l'État-nation chez Richelieu, qui a été en quelque sorte l'inventeur de la diplomatie moderne, même s'il est sérieusement mis à mal. Parce que ce concept d'équilibre des forces est aujourd'hui très sérieusement mis à mal par l'idéologie démocratique américaine, hein, qui impose sa logique de vainqueur de l'après-guerre, mais qui laisse aussi quelques qui laisse penser qu'elle est sérieusement mise à mal aujourd'hui. Ça, c'est vrai.
Le problème avec les Américains, enfin, l'Empire américain, c'est de savoir si il va s'effondrer avant qu'il ait subverti le monde. Je ne sais pas qu'est-ce qui va aller plus vite, ou sa propre autodémolition ou sa propre subversion du monde.
La question est ouverte.
On peut préférer une chose, mais on hésite toujours un peu à savoir. Alors, donc, également, autre thème, comment une nation s'inscrit au cœur de l'homme. Donc,
c'est le fond de la question, et c'est le lien qu'il y a entre l'homme et la nation. Jean-Paul II dit que la nation est une communauté naturelle. Ce concept de droit des nations repose d'abord sur la vision de l'homme que l'Église propose sur son anthropologie. Il y a un lien très très étroit entre l'homme et la nation, et c'est ça qu'il faut arriver à bien mettre en évidence.
L'homme, la famille et la nation.
Oui, alors à travers toutes les communautés, mais la nation, c'est pas une réalité comme une autre, c'est pas simplement un niveau supplémentaire. C'est autre chose.
Alors, vous répondrez également à la question la souveraineté des nations est-elle un concept dépassé? J'ai abordé cette question tout à l'heure.
Oui, parce qu'on fait souvent le lien entre nation ou droit des nations et souveraineté. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Comment? C'est une question que nous allons aborder avec Chantal Millon-Delsol et Paul-Marie Couteau.
Ce nom me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, je ne sais plus, mais ça me dit quelque chose.
Merde, ce colloque est plein de noms qui nous disent plein
de
choses.
Mais oui, c'est ça. Ouais. Alors également, donc, un thème, évidemment, un thème d'une brûlante actualité, mais qu'il faut précisément essayer d'analyser sans trop se brûler la pensée, c'est l'Europe immigration et laïcité. Et la France est-elle un modèle ou une exception? Alors là, vous avez Jean Foyer, ancien ministre, Michel Masselet et Philippe de Saint-Robert, dont ce nom-là aussi me dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je dois trop écouter Radio Courtoisie.
Oui, à travers ces questions, c'est la question de la vocation des nations qui est posée, de leur mission dans le monde et puis de leur génie particulier. Est-ce qu'il y a une façon particulière de traiter le problème de l'immigration en France? Est-ce que ce phénomène, par exemple, de l'immigration, où vous évoquiez l'Europe tout à l'heure, est-ce que ce ne sont pas des phénomènes qui peuvent remettre en cause la réalité de la nation? Et si ça doit remettre en cause cette réalité de la nation française, quelles en seraient les conséquences?
Alors également, donc ça, on parlait du programme du samedi. Alors on va aller très vite maintenant pour laisser quand même un petit peu de temps également à Antoine Boulan, là, qui commence à se ronger les ongles, mais vous aurez un petit peu de temps.
Il sera peut-être réinvité.
Donc il sera peut-être réinvité la prochaine fois. Je suis obligé de
faire un nouveau genre dans cette émission.
Alors, teasing.
Dimanche 3 novembre. Après une messe qui sera célébrée par Monseigneur Dufoy, j'espère qu'il ne fera pas que la présider, j'espère qu'il la célébrera également.
Bien sûr.
Vous allez répondre également à beaucoup de questions dans la matinée et dans l'après-midi. Bon, faut-il un ordre monétaire mondial au service des nations? Avec John Lowland et puis Bernard Cherlenex. Également les conséquences sociales de la mondialisation des échanges, ça c'est une chose qui est un thème qui est très très important. Vous aurez François Jusot et Philippe Benetton, qui n'a rien à voir avec le marchand d'habits, n'est-ce pas?
Non, pas vraiment.
Pas vraiment.
Professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes.
L'après-midi, les grandes puissances respectent-elles l'égalité des nations avec l'ancien, il est toujours président d'ailleurs de la République de Lituanie.
Il a été débarqué. L'Empergisme,
il vient gagner les élections.
C'est le père de l'indépendance lituanienne, le Valéza lituanien, qui a exercé après avoir reconquis l'indépendance de son pays, qui a exercé la fonction de président de la République, qui a été battu aux dernières élections
par les néo-communistes,
revient au pouvoir
avec les nouvelles législatives,
mais dans un contexte très très proche de ce que nous avons connu en France, puisque la constitution lituanienne a été copiée sur la constitution française. Donc il y a un président de la République qui ex-communiste, qui voit arriver une nouvelle majorité conservatrice, et donc il y a une cohabitation en perspective. Et Vytautas Landsbergis sera des nôtres.
Très bien, ça tombe parfaitement. Donc, Idi Hatem, qui est un des conseillers de Michel Aoun, que nous avons eu au téléphone, Michel Aoun, il y a un an, je pense, dans cette émission. Et puis, comment construire l'Europe sans trahir l'Europe, avec Dominique Souchet, qui est un homme plutôt de la tendance villiériste, on dirait, c'est ça?
Oui, on peut le dire. Il est membre du groupe Europe des Nations, dont Philippe de Villiers est le président.
Et encore Paul-Marie Couteau. Vous le faites parler deux fois, Paul-Marie
Couteau?
Deux
fois, mais oui, ça c'est un ami.
C'est un homme qui monte, hein, sur la courtoisie.
Et puis, bon, il a plusieurs corps cordes à son arc, donc qu'il s'agisse d'évoquer Clovis ou bien l'Europe, puisqu'il enseigne en fait le droit international. Et c'est un spécialiste de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.
Et alors, deux conférences de clôture.
Une conférence avec deux intervenants,
avec Gérard Leclerc, journaliste bien connu, et Rocco Buttiglione, qui est un membre de l'association Communion et... Non, il n'est pas vraiment Communion et...
Il a été très proche de Communion et Libération. Il faut surtout le présenter comme étant un des grands philosophes italiens du moment, spécialiste de la pensée de Karol Wojtyla. Il a écrit un livre qui fait autorité sur la question en 1984 et qui s'est lancé en politique après l'éclatement de la démocratie chrétienne pour récupérer ce qui était récupérable en créant le Parti chrétien démocrate unifié dont il est le secrétaire général et qui est l'héritier catholique de la démocratie chrétienne.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir, mais on va avoir sa petite opinion sur la démocratie chrétienne, la mienne est faite depuis longtemps. Alors, pour participer à ces deux jours de colloque tout à fait vraiment de grand intérêt, qui je crois vraiment, l'ensemble de tout ce qui va être échangé va donner une espèce de substance à cette année. Je crois que c'est une année vraiment fondamentale que nous avons vécue à tout point de vue. Et c'est une année qui est formatrice. On s'en aperçoit pas tout de suite, je pense qu'on s'en apercevra dans quelques années, mais je pense que beaucoup de jeunes se sont formés grâce à toutes ces initiatives qui sont prises, à commencer par évidemment la vôtre.
Il y a des prises de conscience, j'ai l'impression, qui se sont faites. Et il est bon de rappeler que Clovis n'est pas simplement un lointain bâtisseur, c'est toujours un modèle, et notamment pour la classe politique, parce que Clovis a donné un coup d'arrêt à l'arianisme, et on a présenté l'arianisme comme un islam qui aurait échoué, ou l'islam aujourd'hui est un arianisme qui aurait réussi. Et il y a toujours deux tentations récurrentes dans le monde politique, qui est celle d'abord de la suppression des frontières. On imagine que les frontières sont des obstacles à la prospérité ou la paix dans le monde, c'est tout à fait faux. Et l'histoire l'a prouvé pourtant, mais là, malheureusement, il est toujours bon de rabâcher certaines évidences. Et puis aussi cette confusion entre le spirituel et le temporel. Aujourd'hui, l'État démocratique occidental est sans maître. Et on en voit aussi le résultat. Ce sont des pouvoirs plus faibles qui en font les frais. Et il est bon de montrer qu'un chef d'État qui s'agenouille, qui reconnaît au-dessus de sa tête une autorité supérieure, étant sauve évidemment la distinction des genres, mais c'est un modèle pour tous nos hommes politiques aujourd'hui, et c'est bon de rappeler.
Tout à fait, c'est une belle façon de conclure votre exposé. Alors donc, nos amis auditeurs qui souhaiteraient participer à Reims à ce grand colloque peuvent écrire à l'association pour la fondation de services politiques, association pour la fondation de services politiques, 10 avenue du Maréchal de Lattre, 10 avenue du Maréchal de Lattre, 92-210 Saint-Cloud, 92-210 Saint-Cloud. Peut-être peut-on donner un téléphone?
Oui, c'est surtout recommandé de téléphoner pour recevoir le programme et le document d'inscription en appelant le 01 42 81 98 21.
Alors, on va le redire une deuxième fois, parce que maintenant, comme il y en a 10, c'est encore plus loin à noter.
01 42 81 98-21.
Merci Philippe de Saint-Germain, merci Monsieur le délégué général de l'association pour la fondation de services politiques. J'espère que cette fois-ci vous ne serez pas trop mécontent.
Merci à vous, très gentil de vous exprimer. Très sensible.
Enfin, je vous le devais quand même. Non, je trouve que cette expérience est très bonne. Encore une fois, je suis très éclectique. J'ai des goûts un peu vague, enfin, dans ces matières-là, mais je trouve tout à fait normal d'essayer, dans la mesure du possible, de faire parler de toutes ces initiatives qui, en définitive, vont absolument dans le même sens. Même si parfois, selon l'endroit où on a, les perspectives semblent un peu différentes, moi je crois que tout ça converge. Je ne suis pas théardien, mais je pense que tout ça converge et va en vérité dans le bon sens, me semble-t-il.
Nous sommes tous des fils de Clovis.
Mais oui, nous sommes tous des fils de Clovis et de notre Seigneur,
des héritiers.
De Clovis. Nous avons une double filiation.
Oui.
Alors je me tourne.
C'est la même.
C'est la même.
C'est le même baptême.
Un seul baptême. Une seule foi. Une seule église. Je me tourne maintenant vers Antoine Boulan, qui a eu la gentillesse de patienter jusqu'à cette heure avancée. Pour dire tout le plaisir et le bonheur qu'on peut avoir. de découvrir des ouvrages qui valent quelque chose. Il est vrai que les dictionnaires sont ma passion et que là je suis servi par l'édition puisqu'il en sort quasiment oui. un par mois oui. et dont certains de très grande qualité. Il y a encore un dictionnaire mérovingien de Pierre Richer qui vient de sortir qui est une petite merveille. Il sort toutes sortes et c'est très 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 pratique. Et là vous avez fait avec le regretté Arnaud de Maurepas un ouvrage sur les ministres et les ministères. Et il s'agit de cette période dite du siècle des Lumières. Discuter du concept de siècle des Lumières, il est passé dans le vocabulaire courant comme poubelle, est devenu aujourd'hui un nom commun. Vous le faites bien sûr commencer en 1715, c'est-à-dire à la mort de Louis XIV, et vous le faites terminer en 1789, c'est-à-dire quasiment mort de la monarchie. Alors, les ministères, qu'est-ce que c'est qu'un ministère? Qui décide vraiment? Combien y en a-t-il? On parle de conseils de ceci, de conseils de ça. Alors c'est toute une espèce d'ensemble dont on aimerait avoir un peu plus de précision sur.
Voilà,
sur
oui, ça. Tout à fait. D'autant que lorsqu'on étudie une période, j'allais dire aussi ancienne par rapport à notre histoire, elle est extrêmement proche de nous, mais par rapport à une période beaucoup plus contemporaine, elle commence franchement à s'éloigner au fur et à mesure que le temps passe, et il est vrai que plus le temps passe, plus les mots deviennent flous, et en particulier les termes de vocabulaire politique qui n'ont pas du tout le même sens à l'époque et aujourd'hui. Effectivement, le fait de se demander déjà ce que c'était qu'un ministre, parce qu'il faut déjà savoir qu'un ministre de l'époque n'était pas du tout un ministre de notre époque à nous, ça renvoie déjà à la définition de ce que c'était que le fonctionnement du gouvernement de cette époque-là, fonctionnement extrêmement compliqué, qui se résumait, si vous voulez, essentiellement, compte tenu de nous étions dans une monarchie absolue de droit divin, à la personne du roi, Louis XV puis Louis XVI, en l'occurrence pour l'ouvrage considéré, les ministres, le personnel ministériel qui avait pour ordre à la fois de proposer les décisions et ensuite de les appliquer lorsque le roi souverainement et divinement avait pris la décision en question. Et puis effectivement des bureaux, une bureaucratie, ce terme un petit peu moderne qui commence à émerger dès cette époque-là. Et l'ensemble de ces rouages faisait tourner donc la machine du dernier siècle de la monarchie qui, à partir de 1789, va évidemment connaître des bouleversements radicaux. Alors, évidemment, d'abord, le terme de ministre. Un ministre, à l'époque, c'était quoi ? C'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ce qu'on appelait à l'époque du XVIIIe siècle un ministre, c'était un personnage de haut rang, quel qu'il fût, qui était appelé à siéger au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, qu'on appelait également le Conseil d'en haut, puisqu'il siégeait au premier étage du château de Versailles, était le Conseil suprême où se prenaient les décisions essentiellement de la politique étrangère, mais disons essentiellement le conseil qui avait le prestige et l'autorité la plus grande. Et lorsqu'on était appelé de par le roi à siéger au Conseil d'État, on était appelé ministre, ministre d'État. Rien à voir évidemment, encore une fois, avec la terminologie non seulement de ministre, mais de ministre d'État actuel, qui veut dire encore autre chose. Bon. Alors le fait de siéger dans ce conseil donnait ce titre de ministre, mais ça ne veut pas dire pour autant que les ministres de Louis XV et de Louis XVI, mais là je parle du mot ministre dans le sens actuel, aient été ministres à l'époque. C'est un peu compliqué, je m'explique, je veux dire par là qu'il y a des gens, des maréchaux de camp, des princes, des militaires essentiellement, qui ont été appelés, comme le duc d'Antin, par le roi à siéger au Conseil d'État, qui ont été intitulés ministres, ministres d'État, mais qui n'avaient pas de portefeuille, pour être plus précis. Vous avez à l'inverse des ministres dans le sens actuel du mot qui avaient un portefeuille, les affaires étrangères, enfin la justice, etc., mais qui n'étaient pas appelés au Conseil d'État. Ce qui fait qu'ils n'étaient pas ministres au sens 18e du mot. Et vous avez enfin, évidemment, ceux qui avaient à la fois un portefeuille et le titre de ministre d'État, c'est-à-dire qu'ils étaient appelés au Conseil d'État ou au Conseil d'en haut pour donner un avis qui souvent était fondamental dans la mesure où ces personnages étaient soit le secrétaire d'État des Affaires étrangères, soit le contrôleur général des finances, qui étaient en réalité les deux piliers, les deux pivots de la machine administrative de l'Ancien Régime. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu la définition. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué dans le détail, si vous voulez, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui un ministère, pour reprendre la question du début que vous m'aviez posée, eh bien c'était, on disait pas de ministère, d'ailleurs on disait un département à l'époque. Le ministre dirigeait un département, et le département était lui-même divisé en ce qu'on appelait à l'époque des détails, et qu'on appellerait aujourd'hui des bureaux. Et chaque bureau était dirigé par ce qu'on appelait à l'époque un premier commis et qu'on appellerait aujourd'hui un chef de cabinet, globalement si vous voulez. Donc voilà à peu près, le vocabulaire a énormément changé, la ligne générale commence peu à peu à se dessiner à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on voit apparaître au XVIIIe siècle et singulièrement à la fin du XVIIIe siècle des lignes de force qui commencent à rappeler peu à peu les lignes de force de notre administration actuelle, avec toute la il faut évidemment relativiser considérablement, il y a un écart terrible entre ce que pouvait être la bureaucratie du XVIIIe siècle et la bureaucratie d'aujourd'hui. J'emploie volontairement le mot de bureaucratie puisqu'il a été employé dès cette époque-là ou peu avant la Révolution pour la dénoncer, bien entendu, cette bureaucratie envahissante où dans chaque bureau il y avait au moins 10 personnes. Alors qu'aujourd'hui vous en comptez 10 fois plus.
Heureuse époque.
Heureuse époque d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est dès cette époque-là qu'on voit poindre la notion de bureaucratie telle qu'on l'appelle aujourd'hui. Mais disons qu'à la base, vous avez toujours un personnel ministériel qui va être plus ou moins à l'origine de ce qu'on appellerait aujourd'hui la loi. À côté de ça, vous avez le roi qui souverainement, lors du conseil, qu'on appellerait le conseil des ministres aujourd'hui, quoi qu'il y en avait plusieurs à l'époque, mais je ne rentre pas dans le détail.
Oui, il y a conseil d'en haut, etc.
Conseil du commerce, conseil de conscience. Le roi prenait la décision telle que les lois fondamentales du royaume lui autorisaient, puisque c'était lui qui, en dernier ressort, prenait une décision, même si tous les ministres autour de lui pouvaient lui suggérer d'en prendre une autre. Et ensuite, le personnel ministériel compétent appliquait l'ordre, si j'ose dire, appliquait la décision dans son domaine, ce qui ressemble plus ou moins effectivement au système actuel, évidemment, en dehors du fait que vous n'aviez ni député, ni Assemblée nationale, ni Sénat, mais ça, tout le monde l'a compris. Voilà.
Le Parlement.
Ils ont beaucoup compliqué la tâche. Non pas dans la mesure où ils ont forcément proposé des choses, mais dans la mesure où ils ont refusé d'enregistrer ce qui venait d'en haut, et justement, monsieur Labbé, parlait tout à l'heure, justement, de cette question de centralisation, etc., qui m'a un petit peu interpellé, et Dieu sait que beaucoup de ministres ont eu quantité de problèmes à l'époque pour faire appliquer les mesures que le roi lui-même avait prises, et même certains ministres dans une position particulièrement ambiguë, comme certains d'entre eux qui étaient autrefois, avant de devenir ministre, parce qu'ils ont eu une carrière avant d'être ministre, tous ces gens-là, étaient souvent présidents de parlements ou de cours souveraines, et avaient eux-mêmes eu à bloquer les décisions du roi. Donc ils se sont retrouvés, en fait, dans deux positions différentes.
Ce livre est un livre intelligent et qui rend intelligent, parce qu'il nous permet de voir, de comprendre la complexité de ces rouages gouvernementaux d'anciens régimes, et de voir aussi qu'il y a, des anachronismes qu'il ne faut pas avoir, c'est que les mots ne veulent pas dire la même chose, vous l'avez très bien exprimé, à cette époque et aujourd'hui, et c'est aussi, donc c'est un petit peu un livre de salubrité, je dirais, de ce point de vue-là, pour l'intelligence, parce que il évite toutes ces schématisations habituelles, et ces confusions même au plan des termes. Alors, je rappelle donc, nous avons très peu parlé, mais il nous reste plus de temps, on fait des signes absolument désespérés, que nous parlions du livre d'Arnaud, du regretté Arnaud de Maurepas et d'Antoine Boulan. Le livre s'appelle « Les ministres et les ministères du siècle des Lumières ». C'est publié aux éditions Christian. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui. C'est un livre qui vaut bon, un certain prix, 280 francs, mais enfin, il est énorme et de grande taille, puisqu'il fait quasiment 500 pages. Vous y trouverez toutes les biographies sur les ministres et toutes les structures. C'est à la fois une étude et un dictionnaire extrêmement précieux pour mieux connaître cette époque. Nous n'avons plus de temps, il nous faut quitter nos auditeurs en rappelant simplement à celui qui nous a appelé, qui nous avait mis l'appel, que le colloque Droit des Nations sera tout à fait édité. Mais nous en reparlerons au moment où l'édition se fera. Chers amis auditeurs, pardon encore de cette fin précipitée d'émission. C'est toujours un peu la même chose. J'espère vous retrouver la semaine prochaine et en attendant, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, assisté de Victoria, du 23 octobre 1996, diffusé dimanche 29 novembre 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.